Coucou Sandrine.
Hello, on est toutes les deux, d'autres
Oui,
personnes.
mais c'est pas, je sais pas si les gens vont revenir, mais c'est pas très grave. Comme ça, on aura la suite du témoignage et je le remettrai en second replay.
Ok.
Ce webinaire jam me tue.
Mais tu n'es pas la première, hein. J'en ai vécu d'autres personnes, oui. Oh. Et il se désactive pas, il n'y a pas moyen de le paramétrer.
Eh ben non, mon équipe, elle a fait pas mal de modifs là. Tu vois,
Oui.
hier, ça a sauté, puis ça remonte. Et là, normalement, ça aurait dû être clean. Et en fait, je sais pas.
D'accord.
Mais en tout cas, c'était important que tu sois là ce soir, je trouve que.
Oui, par rapport à ce que tu disais, la variété des profils, parce que c'est vrai que dans le professionnel, c'est pas souvent exprimé. Enfin, c'est pas forcément la population la plus importante. Alors, mais
Ouais.
c'est super. Oui, puis je voulais parler d'un autre truc, je l'ai pas dit lors du forum de l'entrepreneuriat. C'est ce que tu proposes. Hein, ça a été un moment mémorable. Et pour montrer que c'est possible de faire aussi du coaching fast.
Carrément. Ça vous avait marqué, c'est vrai, hein.
Oui, alors moi personnellement, oui, parce que aussi dans l'entreprise, j'ai le temps de rien. Hein. Enfin, on peut
Ouais.
dire, tu vois, en mobilisant des personnes, mais toujours les mobiliser sur un temps court, en fait. Après, je fais des temps courts, mais avec un processus, tu vois, des étapes. Donc ça c'est... Mais passer 1 heure avec une personne, c'est pas possible. Donc, il y a besoin d'avoir du fast dans le... Et c'est super intéressant.
Ben, surtout qu'en plus, je me rappelle qu'on avait beaucoup parlé de ça après cet événement, et que ça vous avait marqué la capacité à pouvoir taper dans le mille, à générer des émotions, parce qu'en plus, on était sur des créneaux qui étaient quand même assez courts, je ne me rappelle plus, on avait des créneaux de quoi, c'était 30 minutes?
30 minutes,
Ouais,
oui,
c'était ça,
30
30
minutes.
minutes. Et en 30 minutes, c'est vrai qu'il y avait eu, c'était assez fou, il y avait eu de la régulation, il y avait eu de l'activation, il y avait eu de la libération, c'est vrai que c'était, je me rappelle que vous, ça vous avait fait tiquer, ouais.
Oui, puis les personnes prenaient des notes, étaient vraiment et repartaient avec une action, quoi, avec quelque chose de concret. Donc
Ouais.
oui.
C'était des beaux moments, c'est
Tout à
toujours des
fait.
beaux moments, les temps présentiels comme ça, puis de vous voir aussi vous transformer, évoluer. En fait, c'est des moments qui ancrent beaucoup, je trouve, votre légitimité, qui ancrent votre posture, qui ancrent. Donc ouais, c'est essentiel. C'est essentiel.
Et j'y repensais récemment parce que j'ai vu passer la newsletter du prochain forum
Ah oui!
en novembre également.
Oui, bah, ils nous ont proposé, donc je pense qu'on verra, peut-être qu'on y sera aussi, mais on verra. J'ai pas encore dit oui, je me suis arrêtée aux événements en octobre, je crois. Ouais, il faut que je regarde ça. Si tu avais du coup un message à donner à toutes les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre, qu'est-ce que tu leur dirais?
Et bien que c'est le moment d'y aller. Oh, si elles ont envie, faut y aller, hein. Et je crois que c'est ce que tu disais, ou quelqu'un le disait hier. C'est pas une question de se sentir prêt, c'est pas ça le sujet. C'est vraiment surtout l'envie. Et l'envie d'en faire quelque chose. Après, c'est voilà la manière dont ça se déroule. C'est vrai qu'il y a quand même à faire de l'espace, comme tu le disais aussi. Mais c'est vraiment oui de s'il y a l'envie qui est là, bah faut y aller.
Ouais. Suivre l'appel de son cœur et de son âme, je pense. Ok. Qu'est-ce que je voulais te demander? Qu'est-ce qui t'a fait le déclic de nous rejoindre, peut-être? J'aime bien poser cette question parce que j'aime bien entendre vos réponses.
Le déclic, déjà il y avait quelque chose déjà installé, hein, une intention installée, comme je le disais. Voilà, l'été 2024, je me disais, allez, j'ouvre la voie sur la partie coaching. Il s'est manifesté ce webinaire et vraiment en un mot, c'est l'approche structurée, mais surtout la partie yin que tu as en toi. parce que j'avais besoin aussi de travailler un peu cette partie-là que voilà depuis très longtemps et je voulais introduire beaucoup plus de yin en entreprise.
C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que du coup, très souvent le coaching est vu comme quelque chose de solaire, de très yang, de très. Ben, je pense que ça vient de son histoire, quoi, du coaching sportif, du coaching mental, de la performance. Il est très assimilé à la performance. Et du coup, parfois au défaut de l'humain. Et d'ailleurs, les entreprises sont en grande, grande évolution parce qu'elles se rendent compte que maintenant, la performance ne peut pas se faire aux dépens de l'humain et vice-versa. Mais c'est, j'aime bien avoir vos feedbacks parce que moi, je pense que ce qui me rend yin, c'est vraiment mon expertise de la psychanalyse, de la psychopratique, de l'analytique. Je pense que ce qui m'a amené, c'est en fait ce travail de guérison finalement parce que j'étais beaucoup finalement sur la guérison pendant des années. C'est un peu mon histoire, ouais, c'est un peu ma marque de fabrique. Et je pense que c'est ce qui rend les coachings, qui donne peut-être cette dynamique-là assez équilibrée de yin et de yang, tu vois. De, ok, quand il faut pousser, je challenge, mais quand il faut réguler et processer, et libérer. Donc, merci de me renvoyer ce feedback, c'est hyper intéressant à entendre.
Oui, alors parce que du coup, j'allais chercher ça et parce que j'avais déjà expérimenté, je t'avais parlé voilà, de d'autres coachs et que je suis retournée voir il n'y a pas si longtemps. Voilà, j'ai besoin des petites piqûres entre le yin et le yang et ce qui est très bien. Être que dans le yin, et là, je le vis actuellement là, dans la gestion de projet, il manque d'actes posés et de yang, donc je vais revenir sur une dynamique yang, mais voilà, de toujours le garder cet équilibre. Et encore une fois, c'est comme tu le dis, c'est très situationnel. Enfin, j'ai fait des tests de personnalité, je suis très management situationnel, vraiment dans le cœur de... Donc, c'est ça qui m'a amené à me dire, voilà, l'humain, bah, c'est quand même assez volatile et incertain, et c'est important de pouvoir être adaptable. Face ben voilà à la personne qui se présente et à partir de là où elle en est ben quelque part d'avancer vers une trajectoire et une trajectoire qui soit la sienne aussi à la personne à la personne ou au groupe parce que du coup moi je travaille aussi avec des groupes de personnes pour les faire travailler ben, sur les transformations que l'entreprise amène.
Ouais, je pense que c'est important d'avoir cette vision-là de. Moi, j'aime bien cette image, tu vois, de l'orfèvrerie. J'ai vraiment l'impression qu'on fait de l'orfèvrerie. Et le coaching, c'est pas de l'influence. Et le coaching, c'est pas de. Parce qu'aujourd'hui, ça prend cette tournure, même sur les réseaux sociaux, de. Il faut faire ça, ça donne tel résultat. Mais non, en fait, non, c'est pas ça qui donne tel résultat, parce que ça va marcher pour certains et pas pour d'autres. Donc, il doit pas y avoir de notion d'influence, il doit vraiment y avoir la notion de permettre à l'autre de miroir, d'accoucher de lui-même. Et je trouve, ouais, c'est intéressant que tu emmènes les notions de masculin et de féminin. Pour moi, il y a vraiment une dynamique de posture à ajuster en fonction des espaces dans lesquels on est. Typiquement, parlant sur la saison, sur l'hiver, sur. La saison des pluies dans laquelle on était ce soir, c'est vrai qu'on est plutôt sur des dynamiques très yin, en fait, de libération, très de l'être, on est beaucoup sur l'être. Alors que sur les deux prochains jours, on va passer sur des dynamiques très yang, au contraire d'activation, de reprogrammation, donc c'est vraiment très très différent et ça montre bien la globalité de notre être. Donc merci pour ça.
Merci à toi. Merci beaucoup.
Merci d'avoir été présente. En tout cas, je joindrai cette deuxième partie de replay aux personnes, comme ça elles auront ton témoignage. Et ça leur sera précieux, parce que je pense que c'est important aussi de voir la pluralité de vos personnalités, des profils, des projets qui peuvent être bâtis, de vos histoires, de savoir d'où vous venez et vers quoi vous êtes arrivé, vous tendez. Voilà, je pense que c'est vraiment, vraiment chouette et très important. Merci beaucoup, Sandrine.
Merci à toi.
Passe une très belle soirée et puis je te fais un petit message après.
Je te remercie. À demain.
À demain.
Au revoir.
Et bien, merci aux personnes qui sont restées jusqu'au bout, du coup. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Hello tout le monde, cool. Hello, hello. On a eu un décalage de lien, on avait un bug. Bonsoir tout le monde, hello, hello.
Magic.
Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Salut Elodie, Sandra, Capucine, Digital. Très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième soirée. Je vais attendre juste quelques minutes le temps que tout le monde arrive, que toute la technique elle soit bien résolu, bien réglé. Normalement, c'est bon. Hello, hello, salut tout le monde. Salut Sandra. Bonsoir Marina. Bienvenue dans ce jour 2. Bonsoir Priscilla. Hello. Bon, on a eu un petit bug de lien que mon équipe a résolu au dernier moment. La WebEnerger qui nous a fait un petit caprice. Les joies du direct, de la technologie, c'est fantastique. Mais vous êtes là, c'est le principal. Et on va pouvoir commencer. Ok. Bon, il en est pas mal, je pense. Un hello de Strasbourg. Hello, Kelly, de Strasbourg. Moi, je suis dans le sud. Bonsoir tout le monde, j'attends encore quelques minutes. Et on va pouvoir commencer. On part pour une magnifique soirée, je vous préviens, peut-être que je vais aller m'allumer la lumière d'ailleurs. Une soirée autour des émotions, de la deuxième étape de notre approche, la libération, le process. Vous allez vous alléger, je pense, ce soir. Bonsoir Sandrine, hello Léa. Allez, vous arrivez. Je ne sais pas si tout le monde était là hier. Est-ce que toutes les personnes qui sont là ce soir, elles étaient là hier? Est-ce que vous avez vu les replays? Parce qu'on va commencer par une petite pratique d'intégration de ce qui s'est produit hier. De tout ce que vous avez vécu, des prises de conscience, de toutes ces choses-là. Cool. Comme d'habitude, essayez vraiment de favoriser un endroit qui soit propice à cette réceptivité. Ok, super, Elodie. Eh bien, on va pouvoir commencer avant que je vous projette mon écran, que je vous partage mon écran. On va pouvoir débuter. Alors, pour toutes les personnes qui étaient là hier, et puis même pour celles qui n'étaient pas là, c'est pas grave. Si vous avez vu le replay, même si vous ne l'avez pas vu, on va pouvoir quand même avoir cette pratique-là. Je vous l'ai dit, dans notre approche, l'objectif, c'est pas seulement de vous transmettre en fait des informations, des éléments. L'objectif, c'est aussi, si vous voyez regarder sur le côté, c'est parce que je suis sur double écran. L'objectif, c'est aussi de vous permettre d'intégrer ce que vous allez vivre à nos côtés. Ok, Ophélie, ben, je te recommande vivement de voir le replay parce qu'il est très riche. Il s'est passé de très, très belles choses hier. Donc voilà, bonsoir à ceux qui arrivent en cours de route. Et ça va faire sens. En fait, il y a vraiment un déroulé. Ça fait vraiment sens au niveau de la neurobiologie, de votre mode de fonctionnement d'être humain. Ça fait vraiment sens, ce cheminement-là. Donc, on est parti pour cette petite pratique. Donc là, ce que je vous propose juste pour commencer, c'est vraiment une pratique d'intégration de ce qui s'est passé hier. Si vous n'étiez pas là hier, pas de problème. Vous pouvez quand même la réaliser. Vous allez juste simplement vous concentrer en fait sur aujourd'hui potentiellement ce qui vous limite, ce qui vous empêche d'avancer. Hier, beaucoup de personnes ont pu déposer leur blocage et leur problématique. Là, vous, en tout cas, si vous n'étiez pas là, vous allez vous connecter à ce qui vous empêche d'avoir, concrètement parlant, l'activité de vos rêves, de vivre de votre activité, de peut-être même vous lancer, en fait, de vous concentrer là-dessus. Parce que là, on va aller chercher, du coup, peut-être pas tout vous expliquer, parce que vous allez mentaliser, vous allez expérimenter, et je vous explique après. Donc, vous allez juste mettre les mains, en fait, derrière la tête, entrecroisées, derrière la tête. Tout simplement parce qu'on va travailler avec le système nerveux et on va venir stimuler le nerf vague. Donc, vous posez bien les deux pieds bien ancrés au sol. C'est important pour votre ancrage, donc les voûtes plantaires. Si c'est possible pour vous, vous pouvez même le faire debout si vous voulez. Hello, Aurore. Ouais, je suis désolée pour le lien. On a eu un bug au dernier moment. Vraiment, c'est fatigant, cette technique. Ça, c'en est lassant. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime tant aussi les immersions présentielles. Dans la maison, la formation est en distanciel, mais on a aussi beaucoup de liens et beaucoup d'immersions présentielles. Et c'est une raison pour laquelle j'aime les immersions présentielles, c'est parce que du coup, il n'y a pas de technologie. Et donc, on n'a pas ce bug, ces problématiques de bug. Du coup, bonsoir Aurore, mettez bien vos pieds au sol, asseyez-vous, ancrez les ischions, ok, les os des fessiers dans votre support, dans votre chaise. Bonsoir à ceux qui arrivent en cours de route. Si vous voulez pratiquer debout, vous pouvez le faire debout. On part sur vraiment en fait une intégration au niveau de votre système nerveux grâce à une stimulation du nerf vague. Le nerf vagal, c'est le nerf qui est du coup le plus étendu de votre corps, de votre métabolisme. C'est celui qui est relié à toutes vos grandes fonctions vitales. C'est aussi grâce ou alors à cause de lui que vous tombez dans les pommes, le nerf vagal. Okay, et c'est un nerf qui, en fait, aujourd'hui est très, très important dans la régulation du système nerveux, dans la fenêtre de tolérance, tout ce dont on a parlé hier. Et le pour ceux qui arrivent en cours de route. Vous allez simplement, du coup, vous tenir bien droit, étirer le sommet du crâne vraiment vers le ciel. Et on va venir entrecroiser les doigts de cette manière-là. Et vous allez le placer au niveau de votre occiput. Ici. De cette manière-là. Et ensuite, vous essayez de relâcher les épaules loin des oreilles. Ici, on est tout à fait, en fait, au niveau du passage du nerf vague, okay, du nerf vagal. Le tonus vagal est extrêmement important. C'est ce qui vous permet la régulation du système nerveux et le sentiment de sécurité intérieure dont on a parlé, okay, résulte de ces capacités vitales à ce nerf-là. Une fois que vous êtes là, vous allez juste regarder droit devant vous. Moi, j'aime bien le faire sous mes cheveux, mais là, ils sont mouillés. Voilà. Vous allez juste regarder droit devant vous. Okay. Et on va prendre de très grandes inspirations ici. Tout ce que je vous demande pour l'instant, c'est de ne plus bouger la tête. Vous allez en fait garder la tête fixe du début jusqu'à la fin de la pratique, tout simplement. Une fois que vous êtes là, vous regardez droit devant vous, le buste est très élevé, et on va avoir une respiration complète. Donc on va inspirer par le ventre, puis laisser remonter l'air au niveau de la cage thoracique, élever légèrement les clavicules et sentir que cet air redescend de la même manière. On vide le haut du corps et en dernier, le nombril se rapproche de la colonne pour vider le ventre. On va faire juste comme ça 5 cycles respiratoires pour mobiliser la totalité de l'appareil pulmonaire. On gonfle le ventre en inspirant, élever la cage thoracique, abaisser le diaphragme. Les épaules se dressent légèrement, on sent que les clavicules peuvent remonter un tout petit peu, les omoplates aussi, puis on redescend au niveau de la poitrine d'abord, on vide d'abord les poumons, le diaphragme peut se remonter, le nombril se rapproche de la colonne. Et on va juste faire ça encore 3 fois. Respirez profondément, le regard reste vraiment toujours vers l'avant. La tête ne bouge pas, et c'est comme si quelqu'un vous étirait, vous voyez, tirez le sommet de votre crâne en fait. Alors, du coup, Sandrine, c'est pas maintenant. Hop. Ok, une fois que c'est fait, vous gardez le regard droit devant vous. Ok, et vous allez simplement fermer les yeux. Pour quelques instants, vous allez fermer les yeux. Et vous allez penser à ce qui s'est produit hier, ce qu'on a vu ensemble, les premiers mots qui vous viennent, l'intention pour laquelle vous étiez connecté, vos blocages, ce que vous avez pu déposer avec nous. Juste en restant dans la même position, les yeux fermés pour quelques instants. C'est tout ce que je vous demande. Pour les personnes qui n'étaient pas là, vous allez vous connecter à votre pourquoi. Pourquoi vous êtes là ce soir? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Est-ce que vous avez un blocage particulier, une difficulté? Parce que ça, c'est vraiment une pratique, du coup, profonde de travail sur le système nerveux. Vous allez comprendre après. On va venir faire une petite intégration en programmation. Une fois que, donc, vous laissez les sensations vraiment vous réhabiter. Vous vous reconnectez aux mots, aux prises de conscience, peut-être à certains de mes mots, peut-être à la musique, peut-être au son de ma voix, peut-être à un échange, peut-être à Ludo, qui était là aussi avec nous hier soir. Juste laisser revenir, en fait, tout ce qui veut bien être porté à votre conscience. Voilà, simplement respirer dedans, garder bien les yeux fermés. Respirer dans tout ça. Et une fois que c'est OK pour vous et que vous avez tout ça, que vous y êtes bien connecté, vous allez ouvrir les yeux, regarder droit devant vous, vous allez juste suivre le son de ma voix. Fermez les yeux, réouvrez les yeux, regardez droit devant vous. Tournez les yeux à gauche sans bouger la tête. Essayez de regarder votre coude gauche et respirez dans cet espace quelques instants. Sans bouger la tête, sans bouger la nuque, le sommet du crâne tiré vers le ciel. Là, on est vraiment sur le travail du nerf vague et du système nerveux. On cherche un relâchement profond et une intégration pour le cerveau, toutes les données que vous avez acquises. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, votre système il va juste lâcher un peu. Peut-être vos épaules vont se relâcher, peut-être que vous allez avoir un bâillement, peut-être que vous allez sentir un petit truc à l'intérieur. Il n'y a rien à faire ici, simplement à être, à ressentir. Sur la prochaine inspiration, on revient au centre, sans bouger la tête toujours. Fermez les yeux, inspirez, expirez, réouvrez les yeux, tournez les yeux à droite. Même chose, comme si on cherchait à regarder le coude droit. Et on respire dans cet espace. Vous allez sentir qu'à un moment donné, le corps va chercher à relâcher un petit peu, d'une quelconque manière que ce soit. Respirez toujours bien profondément. Et inspirez de nouveau au centre, fermez les yeux, réouvrez les yeux, regardez toujours tout droit, de nouveau fermez les yeux, réinspirez, ouvrez les yeux, et là on va faire le tour du cadran comme si du coup vous vouliez regarder dans le sens des aiguilles d'une montre, haut, en haut, à droite, en bas, à gauche, une fois vous revenez au centre, vous fermez les yeux, vous réouvrez les yeux, et un sens anti-horaire maintenant. Gauche, bas, droite, en haut, revenez au centre. Fermez les yeux. Relâchez les bras, respirez profondément et réouvrez les yeux. Bonjour Pascal. Ok, là vous relâchez simplement. Et on va pouvoir rentrer dans notre deuxième journée. Là, il n'y a absolument rien à faire. Donc ça, c'est en fait un protocole, bon, un petit protocole, hein, parce que normalement, il est plus complexe, mais qui combine la régulation du système nerveux, de l'EMDR et des neurosciences pour aller chercher, en fait, finalement, permettre à votre cerveau d'aller classer les informations qu'il a vécues comme quelque chose de safe, de secure, de pouvoir les enregistrer. Si vous avez vu vice-versa, ça l'explique, en tout cas, ça vulgarise très bien. Bonsoir à ceux qui arrivent en cours de route. Il y a une personne qui a essayé de se connecter, mais pas sur le bon lien, donc je ne sais pas ce qu'elle a fait. Ok, est-ce que tout le monde va bien? Ça va, vous pouvez vous détendre, tout relâcher, et on va pouvoir passer à la suite. Si ce protocole-là, ne le refaites pas seul tant que vous ne le maîtrisez pas, ok? Si vous nous rejoignez dans la maison, je vous en parlerai un peu plus tard, ça fait partie des choses que de toute façon vous apprendrez. Bonsoir aux personnes qui nous rejoignent en cours de route. Alors, je vais vous partager mon écran, si ça veut bien. Pas de souci, Coralie. Alors, est-ce pourquoi ça le partage entier? Ok. Ok, est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien? C'est nous qui sommes désolés parce qu'on a eu un petit bug de lien. Et c'est très pénible. Vous voyez bien? Ok, alright, cool. Parfait. Super. Donc, on est parti aujourd'hui. La première chose que l'on a fait ensemble, c'est l'intégration du jour 1. Ok, parfait. Super, merci de votre retour. L'intégration du jour 1. Et là, ce soir, on va commencer par la seconde étape de notre approche, qui est le process, processer. Pour devenir qui vous voulez, pour accompagner vos clients, en fait, il faut forcément qu'ils aient de la place. Si un système nerveux est saturé, il ne peut plus recevoir de nouvelles informations. Si dans votre vie aujourd'hui, vous soufflez quand vous recevez un nouveau message, vous soufflez quand il faut payer des factures, vous soufflez, en fait, ça veut dire que votre système est saturé. Donc, la vie, elle ne va certainement pas vous donner beaucoup plus que ce que vous pouvez tenir, que ce que vous pouvez vivre. Si aujourd'hui, c'est déjà difficile de vivre la vie que vous avez, elle ne va pas vous demander plus. Vous êtes là, bah, moi plus, autre chose, etc. Mais vous êtes déjà en train de survivre, en fait, de galérer. Donc, la vie, elle ne va pas vous donner plus. Si aujourd'hui, c'est déjà difficile avec le nombre de clients que vous avez, si vous êtes lancé, elle ne va pas vous en donner beaucoup plus. C'est la problématique des thérapeutes. Dans la maison, il y a beaucoup de thérapeutes qui, du coup, fonctionnaient à la séance, qui se sont épuisés à soutenir en fait leurs clients qui, pour certains, reviennent avec toujours les mêmes schémas. Bon, c'était mon cas il y a quelques années. Ou alors qui ne veulent pas vraiment finalement guérir et cherchent plus en fait une épaule sur laquelle s'appuyer pour parler, discuter que finalement prendre la pleine responsabilité de leur mal-être. Et donc ces personnes-là vont s'épuiser littéralement. Donc c'est forcément la vie en fait. Si aujourd'hui vous êtes épuisé avec ce que vous avez, la vie ne va pas vous en donner plus. Il faut être logique. On va le voir dans les lois biologiques. Il faut être logique. Il va falloir d'abord faire du vide. C'est comme dans une maison. Ok, la meilleure des métaphores, c'est la maison. Vous avez votre maison, vous rentrez plein de choses, vous stockez, à un moment donné si vous voulez rentrer de nouvelles choses, il va forcément falloir enlever une partie pour pouvoir accueillir du renouveau. Donc en fait, l'être humain que vous êtes fonctionne exactement de la même manière. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la manière dont fonctionne la vie, la nature, les lois universelles en fait sont les mêmes pour notre humanité, notre petite qualité ou notre grande qualité d'être humain. Donc ça, c'est le programme, la seconde étape de notre approche où vous allez utiliser, pouvoir toucher du doigt en tout cas deux de nos outils qui sont vraiment très très chouettes, vous le verrez au fur et à mesure. On va parler des émotions, forcément de leur importance dans la régulation, dans le process, du véhicule de l'inconscient, des lois biologiques. On va faire ensemble une petite pratique de libération de neuro qui est très très chouette. Et enfin, on parlera de mon outil préféré au monde. Forcément, je suis pas très objective parce que c'est moi qui l'ai créé, enfin c'est nous qui l'avons créé, mais la pyramide du décodage humain, l'outil qui révolutionne actuellement le marché du coaching pour ceux en tout cas qui l'utilisent et qui sont formés par la maison. Donc, hier, on était dans la saison de la régulation, rappelez-vous, ok. Ah, par contre, si ça marche, ok. Dans la saison de la régulation, et là, aujourd'hui, on va aller sur la saison de la libération. Donc, vous, en tant que praticien ou futur praticien, vous allez pouvoir libérer les charges invisibles qui sabotent votre impact et votre légitimité. Mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que vous vivez de l'intérieur notre seconde étape en termes de notre second pilier de notre approche. Mais l'objectif, c'est aussi de pouvoir ensuite vous former pour pouvoir faire vivre ces différentes étapes-là, ces différentes saisons à votre client. Et surtout, pour pouvoir analyser dans quelle saison est votre client et ajuster vos outils en fonction. Je le répéterai jamais assez, mais c'est important. Je pense que je vais mettre de la lumière, même s'il fait suffisamment jour, mais on en manquera jamais. Pas de souci, Annette, vous pourrez voir le replay qui sera disponible dès demain matin, le temps qu'il charge en soirée. Donc voilà, et puis après-demain, on aura ces deux saisons-là ensemble, la saison 3 et 4. Ne les loupez pas parce qu'il y aura du coaching en live en plus. Donc si vous voulez être, pour toutes les personnes qui ont candidaté, si vous voulez être sélectionné, il faut être impérativement présente, sachant que c'est moi qui vais coacher demain. Vous allez m'avoir en long, en large et en travers. Et ensuite, on aura également la saison de l'intégration avec un autre coaching d'une des expertes de la maison. Eh bien, nous sommes partis. Alors, du coup, là, la deuxième étape, c'est le process. La deuxième étape de notre approche, c'est le process. Le process, il est basé sur la loi du vide qu'on va voir juste après, sur le principe qu'un individu, à un moment donné, d'où le burn-out, burn-out, c'est vraiment ça, un individu, en fait, va saturer. Il va avoir trop d'informations que son cerveau et son système nerveux ne peuvent pas digérer. Et à ce moment-là, forcément, on ne va pas l'accompagner de la même personne qu'une personne qui, elle, en fait, se sent bien, va bien et qui peut s'activer, faire plein de projets parce qu'elle a la disponibilité émotionnelle, parce qu'elle a la disponibilité nerveuse. C'est surtout le système nerveux. Donc, on va s'arrêter quelques instants sur les différentes étapes d'un process. Déjà, est-ce que le terme process est clair pour vous ou pas du tout? Quand je vous dis ça, est-ce que c'est clair? C'est un process qui est psychothérapeutique, qui ne vient pas de base du coaching, mais qui est essentiel. Ça fait partie des outils qui permettent aux gens, concrètement parlant, de pouvoir se libérer des charges émotionnelles, des traumas. Voilà. Aujourd'hui, un bon accompagnant sur le marché, c'est un accompagnant qui a des bases de psycho. Ce n'est absolument pas possible d'envisager de l'accompagner sans base de psycho. Moi, ça me dérange très fortement, c'est très dangereux. Quand on ne connaît pas en fait le fonctionnement, je vais vous donner plein de petits tips juste après. Vous allez voir, quand on ne connaît pas le fonctionnement de la psyché, quand on ne sait pas que c'est le cortex préfrontal, par exemple, typiquement parlant, qui est le chef d'orchestre du cerveau, du métabolisme, avec l'analyse mentale, l'analyse profonde, etc., le cerveau vraiment purement analytique, en fait, on passe à côté de pas mal d'informations et puis c'est surtout très dangereux parce que ce qui est important à comprendre aujourd'hui, c'est que certaines personnes, en fait, dans votre accompagnement vont pouvoir être challengées, elles vont pouvoir peut-être révéler des traumas, elles vont pouvoir peut-être libérer des choses et en fait, comme je l'expliquais hier, soyons très honnêtes, le trauma, lui, c'est du vivant. Hein. Donc, il ne va pas se dire à un moment donné, ah bah tiens, attendez, Eugénie, elle est uniquement coach et pas thérapeute, donc je ne vais pas libérer mon trauma parce qu'elle ne pourra pas le contenir. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est du vivant, le vivant ne choisit pas, il sort au moment où, en fait, où il y a vraiment une maturité cérébrale, une maturité nerveuse et émotionnelle pour pouvoir sortir, et souvent quand il se sent en sécurité. Il faut que vous compreniez que le trauma, c'est une charge émotionnelle qui est restreinte et qui existe dans le corps, en fait. C'est une empreinte, une mémoire. Et cette mémoire-là, un jour, elle se réveille. Elle est d'ailleurs faite pour ça, en fait. Si elle n'a pas été réveillée par le passé, c'est parce que la charge émotionnelle, l'intensité émotionnelle qui a été vécue lors de cet événement-là traumatique, donc un moment où on avait besoin de quelque chose et on n'a pas répondu à nos attentes, hein. Le trauma, c'est pas forcément quelque chose de très grave, c'est pas forcément une violence, c'est parfois, en fait, une sensation... une différence de perception entre ce qu'on attendait et ce qu'on a reçu, d'accord? Mais c'est aussi quelque chose que nous, on a pu faire subir à quelqu'un, volontairement ou involontairement. Bref, c'est vraiment une charge émotionnelle qui va venir se greffer, en fait, dans le corps, et elle va se greffer parce qu'en fait, sur le moment, le cerveau n'a pas la capacité de la traiter, c'est trop intense pour lui. Donc, il va venir figer cette charge-là dans un point du corps, dans un fascia, dans un muscle, ok, peut-être même ailleurs. Et le jour où le corps aura cette disponibilité-là émotionnelle, nerveuse, cérébrale, eh bien, ce trauma va ressortir. Et donc, c'est pas, généralement pas, quand vous l'avez décidé. C'est pas vous qui vous dites, ok. Non, c'est quand il y a un espace de sécurité. Rappelez-vous le live d'hier, quand il y a un espace de sécurité et quand il y a une co-régulation avec le praticien, quand on se sent dans des dispositions, prédispositions favorables à ça, quand on a confiance et quand toutes les circonstances sont réunies, en fait, pour que, du coup, ça puisse sortir. Et forcément, si vous êtes dans l'accompagnement, vous allez appuyer sur certains leviers. Voilà, soyons très honnêtes. Et ces leviers-là vont ouvrir des portes. Et parfois, derrière ces portes, on va découvrir des charges émotionnelles qui sont assez intenses et ou potentiellement des traumas simples ou des traumas complexes. À ce moment-là, c'est important d'avoir les outils. La plupart des coachs ne l'ont pas, ne les ont pas. Et du coup, je trouve que c'est très malsain sur le marché. C'est très dangereux, en fait. Donc ça, c'est des dynamiques. Moi, je suis la seule école aujourd'hui, et je le revendique vraiment, à donner toutes ces connaissances-là parce que je veux que mes praticiens soient complets et surtout qu'ils soient sereins dans leur exercice et qu'ils puissent contenir la totalité de ce qui peut se produire en séance. Et c'est encore une fois ce qui vous distingue aussi, parce que les gens très souvent sont là, ils sont « oh bah moi j'aimerais bien trouver un coach, mais c'est quoi la différence entre un coach et un thérapeute ?» Mais c'est quoi? Bah, en fait, vous, c'est simple, vous avez la double casquette, donc comme ça, c'est beaucoup plus facile. Moi, personnellement, j'ai galéré pendant des années à trouver quelqu'un qui travaille comme moi. J'avais vraiment besoin de quelqu'un qui soit complet, c'est-à-dire qui puisse travailler sur toute la ligne de temps. En l'occurrence, là, grâce à ces outils-là, c'est dans la maison, c'est ce qu'on fait, on travaille sur toute la ligne de temps. C'est-à-dire qu'on travaille autant sur le passé, sur la racine, l'origine, le moment où, en fait, ces émotions-là se sont cristallisées. Pourquoi les associations qu'on a vues hier, les associations émotionnelles, cognitives, à la fois sur le présent, parce que quand je travaille sur la ligne du passé, quand je reviens dans le présent, forcément, si je démantèle des choses dans le passé, ça a un impact immédiat dans le présent. Mais vraiment, quand je vous dis que c'est un impact immédiat, c'est que c'est un impact immédiat. Et du coup, ça me donne une meilleure projection sur le futur. Et grâce aux autres outils de coaching dont vous disposez, ben en fait, vous pouvez vous projeter sans difficulté. Vous reprogrammez, vous projetez dans les potentiels, dans les possibilités. Donc, les différentes étapes du process. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Oui, c'est clair. C'est clair pour tout le monde le terme process ou pas? Parce que ça me semble assez important. Qu'est-ce que c'est un process? Je voulais détailler quand même. Alors, c'est beaucoup plus complexe, mais je l'ai vulgarisé. Ça, on voit plus en détail dans la formation. Les différentes étapes d'un process, c'est assez simple. C'est de comprendre qu'en fait, ce qui vous traverse, bon, déjà, peut-être que je vais faire un petit reminder pour tout le monde, la carte d'identité de l'émotion. Donc, la carte d'identité de l'émotion, émotion, en latin, ça vient vraiment d'une étymologie profonde de emo vere, du verbe emo vere. Emo vere, c'est de l'énergie in motion, de l'énergie en mouvement. La définition de l'émotion, ok, c'est de l'énergie en mouvement. Cette énergie-là, elle n'est pas censée se greffer dans votre corps. Elle se greffe dans votre corps quand vous n'avez pas la possibilité de la mouvoir, de la libérer, de l'exprimer sous quelque forme que ce soit. Ça peut être verbalement, ça peut être physiquement, en fait, ça peut être peu importe. Il y a plein de manières et ça dépend vraiment des profils. Mais en tout cas, l'émotion, c'est vraiment une capacité d'expression de soi. Et donc, quand on réfute ces capacités d'expression et ces émotions, eh bien, on les refoule. Tout ce à quoi on fait face s'efface. Tout ce à quoi on résiste s'imprègne, persiste. Donc, forcément, si je m'exprime librement, je fais circuler la vie, le vivant en moi. L'émotion, c'est l'expression du vivant. Okay ? Si jamais je la réprime, par exemple, ce que je vous expliquais un petit peu hier, je dis oui alors que je pense non. Je dis oui pour m'adapter, oui par habitude, oui parce que j'ai assimilé que si je disais non, c'était traumatique, c'était dangereux. Ben, en fait, qu'est-ce qui se passe? Mon corps va commencer à stocker. Okay ? Et lorsqu'il stocke, eh bien, il empêche la force de vie de circuler. Vous connaissez probablement l'énergie vitale, la kundalini, comme on l'appelle dans les territoires ancestraux, mais pour le coup, elle existe, on l'appelle vraiment l'énergie vitale, hein, c'est en science, okay, c'est vraiment en fait, du coup, cette énergie qui passe dans le canal rachidien, dans la colonne vertébrale, et qui est censée graviter, remonter, okay, à travers la moelle épinière. La moelle épinière, c'est vraiment finalement la structure de votre être. Si cette énergie, elle passe pas, c'est de la chiropraxie, mais du coup, si cette énergie, elle passe pas, en fait, cette lumière, elle passe pas correctement entre toutes vos vertèbres, si une vertèbre est déplacée, si un organe, en fait, pour le coup, est plus fatigué qu'un autre, si, peu importe, en fait, ce qui se passe, si une émotion est figée dans un organe, dans un muscle, en fait, l'énergie ne va pas pouvoir circuler librement. Et donc, vous allez avoir l'impression, et vos clients aussi, d'être fatigués, vous devez fatiguer le matin. Il va y avoir quelque chose qui se joue dans la structure de votre corps profond. Pour pouvoir y faire face, pour pouvoir accompagner ça, déjà, il faut que vous l'ayez expérimenté. Sinon, ça n'a absolument aucun sens, soyons très honnêtes. Et surtout, il faut que vous ayez les outils et les armes pour l'accompagner. Et pour ça, il faut cette connaissance profonde que la plupart des accompagnants n'ont pas. Donc, les différentes étapes, on va avoir, la première étape, c'est l'étape de la reconnaissance. C'est d'abord, en fait, pouvoir mettre des mots sur ce qui se joue, qu'est-ce qui existe à l'intérieur de moi pour votre client. Concrètement parlant, nous, on a plein d'outils pour l'emmener à réussir à verbaliser ça, à ressentir ça. Les deux sont importants, la verbalisation et le ressenti. Surtout le ressenti, mais la verbalisation aussi. Donc, la reconnaissance. Ok, bah là, tiens, j'ai mal à la gorge, j'ai des palpitations. Là, c'est vraiment en fait une remise en conscience de toutes les sensations, de tout ce qui se joue intérieurement et ensuite la capacité à pouvoir l'exprimer. Si je ne reconnais pas, c'est comme si je reniais. C'est une étape essentielle. Tout le reste découle de ça. Si je ne reconnais pas, je renie. Combien de personnes sont complètement déconnectées de leur corps, de leurs sensations? C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui se détournent du coaching mental. Parce que le coaching mental, en fait, ouais, ok, ça muscle votre esprit, c'est super, mais ça laisse de côté votre corps, votre système nerveux, votre régulation et tout ça. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que fait le corps? Bah, il se rappelle à vous, il tape à la porte. Et du coup, ça donne des burn-out. Comment les gens arrivent à aller super bien et du jour au lendemain ne pas pouvoir se lever de leur lit? C'est exactement pour cette étape-là. C'est qu'ils renient. Ils renient une petite sensation, une petite fatigue, un petit mal de tête, une fois, deux fois, quatre fois, dix fois. Sauf qu'en fait, les maux du corps sont les maux de l'âme. Et ces sensations-là, ce sont des messages d'expression et d'amour de votre être pour que vous puissiez vous réaligner, en fait, vous réajuster à ce qui se passe en vous, que vous puissiez écouter tout simplement. On va le voir juste après, que chaque émotion vient répondre à un besoin et vient transmettre un message essentiel. Et ça, c'est pareil, ça fait partie des protocoles qu'on voit en psychopratique. La première étape, c'est donc la reconnaissance. Okay, je donne souvent cet exemple quand je donne des formations et des séminaires en présentiel. Si vous voyez un enfant sur le bord de la route, parce que je trouve que c'est le meilleur des exemples. Je vous ai dit que votre cerveau, c'est un enfant de 5 ans. Vous vous rappelez hier? Eh bien, en fait, c'est ça. Vous voyez un enfant sur le bord de la route et vous vous rendez compte que cet enfant, il est en train de pleurer. Il n'est pas bien. Et vous, vous passez en voiture. Je ne sais pas ce que vous... Est-ce que vous vous arrêtez? Soyez très sincère. Hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Est-ce que vous vous arrêtez vraiment, du coup, si vous voyez cette situation-là? C'était une vraie question. C'était pas une boutade. Sans aucun doute. Bah, en tout cas, s'il est seul, oui. Ouais. Ok. Ouais, moi, j'aurais ce raisonnement-là aussi, évidemment. C'est ma situation, c'est s'il était seul. Donc là, il est seul. Ok. En m'assurant qu'il n'y ait pas un adulte à côté. Ouais. Ok. Eh bien, c'est simple. En fait, la manière dont vous agissez avec cet enfant-là, de cette même manière-là, en fait, il vous faudrait agir avec vous. Vous voyez un enfant qui pleure sur le côté. Vous voyez qu'il est en difficulté, qu'il est en souffrance, etc. C'est logique pour vous de vous arrêter. Vous le voyez tout seul, c'est logique pour vous de vous arrêter. Mais est-ce que vous... J'ai eu l'expérience d'un enfant seul perdu qui pleurait. Ben voilà. Est-ce que vous, vous vous arrêtez pour les parties de vous qui sont en train de pleurer? C'est exactement la même chose. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous remplacez l'enfant par vous? En fait, il y a parfois des parties de vous qui pleurent, qui souffrent, qui ont mal, qui vivent différentes choses, en fait. Et ce sera le cas pour votre client aussi. Okay, c'est une partie, c'est pas la totalité de l'être qui vit l'émotion, qui vit l'expérience, c'est une partie. Ça, c'est important pour ne pas s'identifier à l'émotion. Voilà, et du coup, c'est exactement pour ça que je dis ça, Carole. En fait, de la même manière que vous traitez cet enfant-là, eh bien, un praticien va aller d'abord expérimenter les choses sur lui-même, c'est-à-dire reconnaître ce qu'il traverse. Donc déjà, Carole, félicitations de le reconnaître, que vous refoulez. C'est extrêmement important. Donc là, la première étape, c'est de reconnaître. En premier lieu, c'est vraiment, nous, on a plein d'outils dans la maison pour pouvoir en fait s'arrêter, dont des body scans, des choses. Ok, qu'est-ce qui se passe là concrètement des grilles de lecture? Qu'est-ce qui est en train de se jouer là à l'intérieur de moi? La première étape, c'est la reconnaissance. Si je ne m'arrête pas de temps en temps, je crois qu'il y a pas mal de conférenciers qui font ça aussi, que je trouve assez chouette, c'est qu'ils vous disent, ok, ben, depuis quand, en fait, vous ne vous êtes pas installé avec vos émotions? Depuis quand vous ne vous êtes pas installé avec votre peur? Depuis quand vous ne vous êtes pas installé avec votre tristesse? Depuis quand vous ne vous êtes pas installé avec tout ça? C'est assez fou la capacité qu'on a d'avancer tête baissée et en fait, et je le vois dans l'accompagnement aussi, c'est dramatique. On accompagne le beau, ok, on se projette, on met les ressources, ouais, mais du coup, on laisse de côté, en fait, finalement, on laisse de côté toutes les parts de l'être qu'on va juger pas belles, qui ralentissent, qui font souffrir, etc. Mais forcément, ça peut pas marcher. C'est ce qu'on appelle le shadow work, le travail de l'ombre. On ne peut pas avancer sans cette ombre-là. Carl Jung disait, je crois qu'il n'y a pas un séminaire ou une conférence ou une formation où je ne le dis pas, Carl Jung disait, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dominera votre vie et vous appellerez ça le destin. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dominera votre vie et vous appellerez ça le destin. C'est exactement ça. Tant que vous n'irez pas dans ces méandres-là côtoyer ce qui se joue, en fait, le cerveau, ben forcément, ça demeurera, ça persistera et ça créera des blocages et ça limitera votre capacité à recevoir plus. Votre cerveau, il n'aime pas l'inconfort, on ne va pas se mentir. Donc, à chaque fois qu'il y a des phases d'inconfort, okay, il va tout faire pour les éviter. Donc, forcément, son premier mode de fonctionnement, c'est refouler. Et j'espère que ce soir, il y a Agathe ou qu'elle regarde ce message, parce qu'on a beaucoup discuté là-dessus ces derniers jours. Vos ruminations, l'intellectualisation, le fait de beaucoup penser, d'être dans vos têtes, ce n'est qu'un symptôme d'un refus de ressentir. C'est que votre cerveau, en fait, il filtre. Il y a trop d'intensité émotionnelle dans son corps. Il ne peut pas se connecter à ce qui se joue, aux peurs, à l'incertitude, à l'inconfort, à la joie, à tout ça mélangé. Il n'arrive pas à trier. Donc, boum, il fait monter l'énergie dans la tête. Comme ça, on réfléchit et on n'est pas en train de ressentir. C'est ce qu'on appelle le principe de dissociation ou de prédissociation en fonction de l'étape où vous en êtes. Ça, c'est pareil, ça fait partie des choses en fait, qui sont de l'ordre de notre accompagnement en tant que praticien, en tant qu'accompagnant du vivant. Et si vous n'êtes pas formé, bah forcément, vous n'avez pas les outils et les armes pour faire face. Ouais, ouais, c'est très juste, Pascal. Moi aussi, ça m'arrive très souvent. Donc, une bonne séance nécessiterait une libération, expression émotionnelle. Alors, attention, ça dépend la saison dans laquelle est votre client. Je répète, c'est important. C'est pour ça que nous avons 5 saisons différentes, une grille de lecture de lettres, parce que la première étape, ce que je vous disais lors de la séance de live d'hier, ça dépend d'où on est actuellement, physiologiquement, votre client. Peut-être qu'il aura besoin de régulation parce qu'il est complètement dérégulé, c'est panique à bâbord, il est dispersé, il est dans l'insécurité, etc. On va essayer de ne pas remettre de la libération là-dessus. Minute papillon, généralement, elle va suivre. Mais d'abord, on va réguler, remettre de la sécurité, l'alliance thérapeutique au maximum sécurisée. Ça, ça part de votre posture, ça part de vos outils, de tout ce qu'on on verra dans la maison. Et ensuite, du coup, là, une fois que la personne est régulée, généralement, naturellement, on va basculer sur une libération parce que la personne, elle va en fait ouvrir des espaces, de se sentir en sécurité, elle va ouvrir des espaces pour pouvoir faire de la place. Okay, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un vrai sens dans notre approche, dans la manière dont ça a été créé, ça respecte fondamentalement le fonctionnement neurobiologique du vivant, de l'être. Mais maintenant, on a des personnes qui vont pouvoir arriver, qui sont sécures et qui vont pouvoir libérer tout de suite, faire de l'espace tout de suite parce qu'elles sont disponibles, elles sont disposées. Typiquement parlant, généralement, moi, dans l'école, mes praticiens vont très, très vite. Parce qu'en fait, comme je passe beaucoup de temps à les réguler, bah, ils vont pouvoir libérer beaucoup plus facilement et on va aller beaucoup plus vite. Okay, mais la libération demande aussi un vrai sentiment de sécurité intérieure, demande d'être entouré, une co-régulation, plein d'ingrédients dont je parle en détail dans la maison. Donc, ce n'est pas une bonne séance, ça ne nécessite pas forcément une libération ou une expression émotionnelle. C'est essentiel d'aller toucher les émotions parce qu'on va voir qu'en fait, c'est le cœur du vivant avec les émotions. À partir du moment où il y a émotion, ça veut pas forcément, ça veut dire que vous allez taper dans le mille, vous allez soulever quelque chose, mais l'expression de l'émotion en elle-même, il y a des personnes qui vont pas émotionner, processer de la même manière. Il y a des personnes, vous allez avoir un impact hyper profond et pourtant, elles ne vont pas forcément vous donner des grandes larmes ou des émotions intenses. Ça, c'est pas significatif. Il faut pas vous fier à l'intensité de l'émotion. C'est pas forcément toujours très vrai. Il y a des personnes qui vont vivre des choses très, très intenses intérieurement et qui vont ensuite peut-être les exprimer autrement et peut-être pas avec vous en séance, mais a posteriori. Donc, voilà. Donc, j'espère que je réponds à ta question, Carole. N'hésite pas à me dire. Mais forcément, les émotions, c'est le cœur du vivant. C'est ce qui vous rend vivant. C'est ce qui vous tient debout. C'est ce qui fait que votre cœur, c'est pas un électrocardiogramme plat. Ce serait inquiétant. C'est vraiment ce qui fait qu'en fait, vous avez, vous voyez bien les montagnes russes de la vie. C'est la même chose qu'un électrocardiogramme. Ça monte, ça descend. Donc, en fait, c'est un des points essentiels et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'un être humain régulé, c'est un être humain qui est dans la pure expression de lui-même. Ça veut dire qu'il va dans ses colères. Ça veut dire qu'il va dans sa tristesse, ça veut dire qu'il a cette sensibilité, qu'il peut s'émerveiller, qu'il peut vivre 10 000 émotions en même temps parce qu'on est des êtres, on est des palettes d'arc-en-ciel. Les gens pensent que la régulation, c'est ce truc de je réagis pas. Non, là, ça me passe au-dessus. Non, je réagis pas. Non, mais alors, non, n'importe quoi, en fait. Donc, du coup, c'est absolument faux. Qu'il y a des choses qui vous touchent moins parce que vous prenez du recul, c'est essentiel. Mais l'expression même du vivant, du coup, c'est justement d'aller dans la pleine existence de toutes nos émotions. Voilà, c'est certainement pas de réfuter sa colère, certainement pas. Par contre, être moins trigger, c'est-à-dire être moins activé par certaines choses, bien entendu, évidemment, parce que l'objectif, c'est pas d'être en colère tous les jours, tous les matins, toutes les 5 minutes. Est-ce que c'est clair pour vous, tout ça? Alors, mais comment savoir si une personne n'est pas en zone d'activation? Ben, on va le voir avec la pyramide de décodage humain, en fait, Priscilla, un petit peu après. Ah ben, ouais. En fait, les émotions sont vraiment une boussole, mais vous savez, le coaching, c'est un art. Enfin, je le redirai jamais assez. Moi, ça me tient vraiment à cœur parce que c'est un art de vivre. Je mange, je dors. Je vis coaching. Enfin, très clairement, c'est pour moi, c'est plus qu'un métier en fait. C'est un art. C'est un art et c'est une identité même. Donc, vous allez apprendre. Et moi, dans la maison, je mets pas du tout de côté l'intuition et le ressenti. Il y a beaucoup de techniques parce que je sais que c'est important. Mais il y a aussi beaucoup la capacité à laisser être le vivant et à vous fier à vos ressentis. Et c'est vraiment, vous allez voir avec le temps. Si on est amené à travailler ensemble, c'est très facile d'arriver à savoir, en fait, grâce aux outils aussi qu'on a développés, à quel endroit, en fait, vous pouvez, du coup, insérer votre question, votre protocole, comment ouvrir des portes, entrouvrir, faire de l'espace. C'est vraiment très, très facile au final. Ça vient avec la pratique, mais c'est très facile. Enfin, vous verrez des témoignages d'autres coachs qui le vivent, mais. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, le but, c'est que ce soit toujours très co-créé quoi, et interactif. Donc la première étape, c'est la reconnaissance. C'est d'emmener vraiment, pour vous, hein, mais je parle aussi pour vos clients, pour emmener vraiment l'individu en fait à se reconnecter, à reconnaître ce qui se joue. Sans cette reconnaissance-là, il ne peut pas y avoir de transformation. Je le dis, je vais être très honnête. Si les gens ils restent dans le déni de ce qu'ils ressentent, moi, très clairement, je l'ai vu. Hein. J'ai vu des personnes en accompagnement être dans le déni. Non, mais moi, je veux rester dans la joie. Je veux rester dans la joie. Non, mais alors, déjà, on n'est pas fait pour être dans la joie tout le temps. On ne pourrait pas tenir le niveau d'adrénaline et de dopamine que ça emmène. On aurait forcément, si vous étiez là hier, le système de compensation qui reviendrait à un moment ou à un autre. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est renier une partie de son humanité, de renier sa tristesse, de renier sa colère, de renier tout ça. Est-il nécessaire selon toi d'être formé à la psycho pour coacher? Nos connaissances perso ne suffisent-elles pas? Alors moi, je vais être très très honnête sur ça. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on se distingue énormément du marché et pourquoi on est si demandé, c'est la profondeur de nos connaissances. Donc, il faut pas avoir forcément fait une fac de psycho parce qu'il y a plein de trucs qui servent à rien dans la fac de psycho pour être honnête. Par contre, avoir les fondamentaux que nous on enseigne, pour moi, oui, c'est essentiel. Les connaissances personnelles sont c'est un petit peu trop subjectif pour moi, en fait, parce que les connaissances personnelles elles varient d'un individu à un autre, etc. Si on veut accompagner vraiment profondément, si vous voulez, en fait, pour moi, hein, comment, si vous voulez être un coach lambda qui accompagne en surface, pas de base de psycho, voilà. Maintenant, moi, c'est pas ce que je cherche à emmener. Moi, ce que j'aime, c'est la profondeur de la connaissance, la profondeur. L'être humain est tellement complexe. On va le voir juste après. Un très bon exemple, Priscilla. Est-ce que vous connaissez les émotions miroirs? Je vous laisse répondre. Connaissez-vous le principe des émotions miroirs? C'est pas une question piège. Non, je parle des émotions miroirs, pas des neurones miroirs. Ok, non. Bah, vous voyez par exemple ça. Ça fait partie des connaissances qui, à mon sens, sont essentielles. Ce ne serait pas ce que l'on vit dans la relation à l'autre. Non, c'est pas ça. C'est pas la projection miroir. Vous voyez typiquement pourquoi, en fait, pour moi, c'est essentiel d'avoir des bases de psycho. Parce que ne pas en avoir, c'est vraiment le fait de rayonner à l'autre ce que l'on projette. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, du coup, je vais vous expliquer. C'est hyper important. Ça, c'est mon calepin que j'ai ramené en Thaïlande. Ça, c'est une bouteille. Le principe des émotions miroirs, c'est quoi? Et ça, c'est important quand on accompagne. Mais vraiment, sincèrement, et des notions comme ça, j'en ai plein. C'est pour ça que je vous dis que c'est important d'avoir vraiment les bases de psycho. Les bases de psycho, c'est ce qui vous permet d'être trauma informé aussi, si vous faites face à des traumas. En fait, là, le danger en accompagnement, c'est de passer à côté d'un élément ou de traiter le mauvais élément, en fait, de se laisser berner par l'histoire du client. Ce qui me touche fortement chez l'autre me parle aussi souvent de moi. Oui, mais c'est pas ça l'émotion miroir. Les émotions miroirs, en fait, c'est un principe de psychologie qui a été mis au point pour vous faire comprendre quelque chose. C'est qu'une émotion, très souvent, en cache une autre. Donc, vous allez souvent traiter, en fait, la première émotion qui surgit. Alors que cette émotion-là, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un mécanisme de protection, voire, la plupart du temps, un mécanisme de défense qui a été mis sur une autre émotion plus profonde. Je vous donne un exemple très concret. Quand j'étais petite, du coup, mon papa, il me baladait beaucoup, etc. Et ouais, par exemple, c'est ça aussi. Mais il y a pas que ça, en fait. C'est une généralité, la colère cache la peur. J'étais fatiguée. Et en fait, je lui disais souvent le soir que je voulais pas sortir. Je me rappelle quand on était dans le sud, j'étais fatiguée. Et il me disait, mais si, on sort quand même. Et en fait, du coup, je disais, non, en fait, moi, je suis fatiguée. J'ai pas envie de sortir, etc. Mais si, on sort quand même. Et du coup, il me forçait à sortir. Et en fait, je finissais quelque part par être triste. Après, il me disait, mais t'es ronchon. Et donc, du coup, ça me mettait en colère. Et donc, en fait, j'avais une émotion profonde qui était la tristesse qu'on n'écoute pas mes besoins. Mais vraiment, c'était une émotion profonde, du coup. Et en fait, je la cachais derrière un mécanisme que j'ai développé qui est la colère. Parce que quand j'étais fatiguée, il me disait, bah, en plus, tu vas pas être chafouin en plus, tu vas pas machin. Du coup, je me mettais en colère. Et quand j'étais en colère, eh ben, il me disait, c'est bon, hein, t'es mal luné, etc. Et du coup, j'ai commencé à faire en fait un espèce de sandwich des émotions, vous voyez, hop, pour mettre une autre émotion par-dessus encore. Alors que, vous voyez, en accompagnement, c'est hyper dangereux ça. Parce qu'en fait, en accompagnement, on pourrait se dire, ah cool, j'ai touché la première émotion, c'est génial. C'est pas la première, c'est celle qui est en surface. En fait, il y a une autre émotion qui existe d'en dessous et peut-être même encore une autre. Et en fait, ce qui va permettre de résoudre la problématique, de libérer le blocage, ce n'est pas la première. C'est celle qui est la plus profonde, la plus ancrée, celle qui a existé en premier et qui a été tamisée, qui a été cachée, qui a été vraiment, en fait, finalement, honteuse pour qu'on développe un comportement d'adaptation et une émotion d'adaptation par-dessus pour ne pas que la première qui gênait, finalement, en fait, soit vue, soit prise en compte. Et ça, c'est des mécanismes tellement profonds que c'est essentiel, en fait, d'y être formé. Parce que sinon, en accompagnement, vous allez traiter en surface. Alors, OK, vous avez peut-être enlevé une couche, hein, c'est super, mais vous n'allez pas du tout résoudre la problématique. Donc, ça va ressortir, vous rappelez comment fonctionne l'inconscient, il cherche les supports de projection. Donc, ça va ressortir d'une manière ou d'une autre sur une autre situation. Un train peut en cacher un autre. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est important pour moi. En tout cas, c'est pour illustrer ce que tu me demandais, Priscilla. Est-ce qu'il faut avoir des bases de psychopratique? C'est pour ça que je vous dis que chez nous, vous gagnez 10 ans. Parce que vraiment, il y a des notions, en fait, que vous n'allez retrouver nulle part ailleurs et qui sont essentielles pour accompagner. Donc, la reconnaissance. Ensuite, n'hésitez pas si à me poser des questions, voilà, pour que tout soit le plus clair possible pour vous. Ensuite, on a l'acceptation. Une fois que maintenant j'ai reconnu, est-ce que j'accepte? Parce que je peux très bien reconnaître, ok, je reconnais tout ça, mais je m'en fous, je m'en occupe pas, c'est bon, stop, arrête, allez, arrête de faire ton truc, continue, lève-toi, il faut y aller. Là, du coup, je suis pas en train d'accepter. Le premier levier du changement, c'est l'acceptation. Ça me fait beaucoup penser, vous savez, aux personnes qui font de la chirurgie esthétique. Très souvent, elles vivent avec l'image d'elles avant la chirurgie. Parce qu'en fait, avant de se faire opérer, avant de se transformer, elles n'ont pas accepté leur image. Et donc, l'inconscient, il n'a pas intégré qu'en fait, il y avait eu cette image puis une nouvelle image. Il est resté bloqué dans l'image précédente, dans l'identité précédente. Il n'y a pas eu de mise à jour parce qu'il n'y a pas eu acceptation. C'est comme les gens qui perdent du poids et qui continuent après des années à se trouver gros. En fait, ils n'ont pas accepté leur corps initial. Ils ont voulu changer, se transformer sans accepter initialement qui ils étaient. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des étapes qui sont essentielles quand on veut faire une transformation identitaire. Là, on parle d'émotion. donc clairement, mais ça vaut aussi sur le plan structurel et identitaire. Donc accepter, venir accepter ce qui se joue profondément, encore une fois, pour ça on a des protocoles, bien entendu. Ensuite, nous avons l'investigation, comprendre. La plupart des gens vont intellectualiser l'émotion, mais tout le temps, mais je le vois, moi j'ai fait plus de 8 ans de cabinet, vraiment, et c'est assez fou à quel point les gens sortent tout de suite du ressenti parce que c'est tellement inconfortable pour aller dans l'intellectualisation. Non, mais je comprends ce qui s'est passé, c'est bon, ça, c'est bon, je vais ajuster, etc. Non, mais allons, en fait, profondément dans l'intensité émotionnelle, parce que ce qui n'est pas ressenti, en fait, se reproduira. Ce qui n'a pas été ressenti se reproduira une fois, 10 fois, 20 fois, jusqu'à ce que la charge émotionnelle puisse sortir. C'est pour ça qu'il y a des schémas répétitifs. Les gens disent, je comprends pas, je tourne en boucle. Oui, parce qu'en fait, la charge émotionnelle a besoin de sortir. Et tant que vous ne l'autoriserez pas à sortir, elle cherchera des schémas répétitifs pour se projeter 1 fois, 2 fois, 1000 fois, jusqu'à ce que vous acceptiez de ressentir profondément. Donc, on investigue, on commence à en fait chercher à intellectualiser une fois qu'on a profondément ressenti. On peut mettre des mots une fois que d'abord le corps a pu exprimer ce qui se jouait intérieurement. Il y a vraiment un ordre dans le process. Ensuite, on a le fait de nourrir et d'apaiser. Dans chaque blessure, dans chaque expérience de votre vie, dans chaque émotion qui s'exprime, c'est d'abord un besoin en fait, profond de votre être qui a besoin d'être assouvi, qui a besoin d'être nourri et qui potentiellement n'a pas été nourri, d'accord ? Donc, quand on parle de colère, c'est peut-être qu'on a dépassé ses limites. Donc, on n'a pas respecté son besoin de prendre soin de soi, son besoin de solitude, son besoin de repos, son besoin, etc. Il y en a plein, hein, y a vraiment une cartographie dans la roue des émotions, mais parfois, c'est beaucoup plus complexe encore que ça, notamment quand il y a des émotions miroirs. L'objectif ici, c'est d'arriver à faire en sorte de communiquer avec l'émotion, comme on communique avec ce petit garçon, cette petite fille de 5 ans qui est sur le bas-côté, qui est seule. Ok, de quoi tu as besoin? C'est peut-être une des premières questions que voilà, vous lui diriez, est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Etc. Bah, en fait, là, c'est cette étape-là, nourrir et apaiser. C'est vraiment profondément se choyer. Et dans cette approche-là, et c'est ce qui fait que nous, nos résultats, ils sont décuplés aussi, on ne va pas se mentir, c'est que nous, on vient responsabiliser les gens. Profondément. On va pratiquer ce qu'on appelle le reparentage, c'est-à-dire qu'on va restructurer de manière vraiment intérieure l'être sur toutes ses dimensions pour que la personne se reparente, c'est-à-dire pour qu'elle n'ait plus besoin finalement en fait du fait qu'on réponde à ses besoins extérieurement et qu'elle puisse en prendre la pleine mesure, la pleine responsabilité, la pleine charge, voire même qu'elle n'ait même plus besoin de nous consulter parce qu'en fait elle sera autonome dans sa pratique-là. Et ça, c'est tellement puissant. C'est une des premières choses que je vais faire à mes coachs en arrivant pour les remettre dans leur pouvoir, dans leur leadership et pour qu'ils puissent se rendre compte qu'en fait, ils ont absolument toutes les ressources à l'intérieur d'eux. Donc, nourrir et apaiser, répondre aux besoins, répondre. En séance, c'est tout et n'importe quoi. Quand vous accompagnez un nourrir et apaiser, ça peut être... moi, je me rappelle d'une cliente un jour en cabinet qui me dit « Ben, moi, là, tout de suite, je sens que j'ai besoin de boire un verre de coca. » Ben, on va faire en sorte qu'après la séance, elle aille boire son verre de coca. Ça peut être nourrir, apaiser, ben, j'ai besoin de communiquer en fait quelque chose pour plus que ça se reproduise vivant. En tout cas, il y a vraiment, nourrir, apaiser, il y a vraiment une action qui est menée après, une mise en mouvement, mais une fois qu'on a passé l'espace intérieur, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intériorité vers l'extériorité. Et ensuite, transformer la perception de la blessure. Alors ça, c'est une étape que je pense quasiment tout le monde oublie. En fait, pour ne pas que le cerveau il garde la charge inconfortable ou le souvenir inconfortable de ce moment-là, pour pas qu'il se dise, par exemple, qu'il fasse une association cognitive émotionnelle, thérapeute égale forcément pleurer et souffrance. Vous voyez, thérapeute, accompagnement égale coach égale forcément inconfort. Non, pas comme ça que ça marche. Eh bien, on va en fait transformer la perception de la blessure. Ça, c'est hyper profond. J'en parle dans mon guide, le guide alchimique, là, les 50 questions pour transformer votre histoire en œuvre d'art. J'en parle dedans. C'est hyper, hyper puissant. Je crois que c'est un des outils que je préfère le plus au monde. C'est un phénomène d'alchimisation qui permet de transformer vos souffrances. En fait, je vous l'ai expliqué un petit peu hier, c'est le principe de la polarisation. Chaque événement, chaque situation, chaque émotion, chaque blessure que vous vivez, en fait, elle a deux, finalement, polarités. à une polarité négative, la souffrance à laquelle vous allez l'assimiler, peut-être les blessures passées, le moment difficile, et elle a une polarité positive. La plupart des gens ne vont jamais, jamais chercher la polarité positive. Et c'est bien dommage, parce que c'est ce qui transforme l'expérience et c'est ce qui régule votre système nerveux. C'est de venir en fait chercher, ok, la ressource, le niveau de résilience qu'il y a dans l'événement, dans l'émotion, ok, qu'est-ce que ça m'apporte que je ne vois pas encore? Et des fois, en fait, on ne le voit pas tout de suite, on va le voir quand on aura digéré, c'est-à-dire quand le process aura terminé, naturellement, ça va remonter à la conscience. Si vous avez le mécanisme, si vous ne l'avez pas, c'est plus compliqué. Mais ce sont des choses vraiment assez, assez dingues. Je vous donne un exemple très concret. Moi, j'ai perdu mes grands-parents quand j'étais toute jeune. C'était mes figures d'affect. J'ai grandi avec mon grand-père et ma grand-mère. Ils s'occupaient de moi, ils m'emmenaient à la cantine, ils m'emmenaient à manger à la maison de midi. Voilà, j'étais très, très proche d'eux. J'habitais dans une campagne à la ferme. Et mon père voyageait beaucoup pour le travail. Et donc, ils se sont occupés de moi. Et quand ils sont partis, ça a été vraiment un effondrement. Enfin, c'était... J'arrive après, Priscilla, je te réponds après. Ça a été vraiment très difficile. Et donc, à ce moment-là, en fait, j'avais finalement... j'avais pas l'âge, j'avais pas la maturité nécessaire pour comprendre ce que ça m'apportait, mais des années après, ce manque perdurait. Même à l'âge adulte, ce manque perdurait. Dès que je pensais à eux, je pleurais. Il y avait toujours cette charge émotionnelle qui perdurait. Et on sait que quelque chose est guéri quand on peut commencer à en parler sans avoir la charge émotionnelle qui se déclenche. Et ça, c'est important. On sait que ça processe quand la charge émotionnelle, c'est vraiment abaissé, c'est effacé. Et en fait, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup là-dessus. De toute façon, j'ai fait beaucoup de psychanalyse aussi. Et en fait, ce qui est vraiment ressorti, c'est que les perdre si tôt, parce que j'étais toute jeune et de manière assez conséquente, parce que ma grand-mère est partie 6 mois après mon grand-père, ça m'a vraiment permis de développer une grande autonomie, en fait, une grande capacité à me gérer seule, une grande indépendance, une grande foi aussi. Ils m'ont beaucoup transmis de foi que quelque chose de plus grand m'attendait, en dépit du fait qu'ils ne soient pas là, parce que je suis convaincue qu'ils sont toujours pas très très loin, près de proche de moi, à veiller sur moi. Mais voyez, en fait, c'est cette faculté à chaque fois de pouvoir transformer finalement la perception de la blessure. Et forcément, vous en êtes même pas compte, mais au niveau énergétique, c'est un truc de fou à quel point ça fait monter votre énergie vitale, en fait, de changer du coup cette polarité-là. Et c'est valable pour tout, hein. Vous prenez les plus grandes souffrances de votre vie, vous essayez d'en extraire l'essence, le nectar. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça vous a construit, ça vous a emmené des nouvelles qualités, des nouvelles visions, ça vous a forcément emmené quelque chose. Et ça, c'est absolument transformationnel. Ça, c'est vraiment un retournement de cerveau. Est-ce que ce n'est pas physiologique, neurologique, le cerveau humain ne retient pas plus facilement que le négatif, que le positif? Alors ça, scientifiquement parlant, c'est pas prouvé. En fait, on lit ça partout. Mais pour moi, je vais être très tranchante, pour moi, c'est un putain de conditionnement. C'est un gros fake, en fait. C'est juste qu'on a été élevé dans une culture du conditionnement à voir le négatif. C'est plutôt ça pour moi, en fait, aujourd'hui. Mais à la base, c'est pas dans notre nature profonde. Mais pas du tout, en fait. Ça, c'est un conditionnement qu'on nous a foutu dans le cerveau et dans la tête. Je suis désolée, mais regardez les informations. Je veux dire, en fait, à quel moment vous avez des nouvelles qui sont positives? Pour moi, c'est vraiment un conditionnement. C'est typiquement un conditionnement. Donc, merci Priscilla. Non, pour moi, c'est une grosse connerie. Je l'ai entendu plein de fois de la bouche de certaines personnes. Je disais souvent, quelles sont vos sources? Mais en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de sources. Il n'y a pas d'études neuroscientifiques qui disent que le cerveau, il est plus branché sur le négatif. On a des filtres perceptifs et on a des biais cognitifs. Ça n'a aucun problème, ça, c'est sûr. Mais ça part déjà de choses qui sont greffées en nous. En fait, vous allez avoir un biais de confirmation. Par exemple, si vous vous dites, ah non, mais c'est sûr, j'y arriverai pas, en fait, tout va conspirer autour de vous à vous montrer que vous n'allez pas y aller. Mais déjà, c'est parce qu'intérieurement, vous vous dites que vous n'allez pas y arriver. Demain, vous vous dites, oh là là, je vais mettre toutes les chances de mon côté, je vais y arriver. Vous allez avoir des biais de confirmation partout. Donc, du coup, on est d'accord, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide est nécessaire. En fait, c'est plus que nécessaire, c'est essentiel. Il faut rééduquer votre mental et votre corps et votre esprit à ça. Ça a été particulièrement vrai pendant le Covid, pendant l'époque de l'épidémie du Covid. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on a basculé l'égrégore énergétique a basculé dans le côté obscur, les gens étaient beaucoup dans la peur. Du coup, les gens voyaient le verre à moitié vide, ils pensaient qu'ils allaient mourir, donc ça activait des instincts de survie. Là, vous voyez, là où c'est pour moi important d'avoir ces connaissances fondamentales, même au niveau de la psyché, c'est que moi, par exemple, cet égrégore-là, je ne l'ai pas du tout vécu comme tout le monde. Parce que je savais exactement ce qui se jouait profondément, en fait. Je voyais les schémas chez les gens. Moi, je n'ai pas regardé la télé, j'étais très égoïste sur tout ça, j'ai enlevé mes enfants de l'école, je l'assume pleinement pour ne pas qu'ils aient à vivre ça. Et j'ai simplement, je les ai protégés de ce gros bordel là, et j'ai réadapté mon activité à ce que je vivais, mais en tout cas moi ce que je ne je voulais pas tomber dans cet égrégore là parce que je sais comment fonctionne la nature humaine. Je sais qu'encore aujourd'hui la plupart des systèmes nerveux des gens portent encore cette mémoire là. Énormément de gens qui vivent dans la peur depuis le Covid, encore plus depuis le Covid, déjà c'était le cas avant, mais encore plus depuis le Covid. Ça a réactivé des instincts de survie, ça a réactivé les cerveaux reptiliens, ça a réactivé... Donc l'avantage d'avoir ces connaissances-là, c'est qu'en fait, vous ne partez plus dans les procès, vous n'êtes plus emmené du coup, parce que vous savez comment fonctionne votre psyché, comment fonctionne votre physiologie, comment fonctionne votre biologie. Donc oui, bien sûr que c'est important de... En fait, dans tout ce que vous allez vivre au quotidien, il y a profondément un enseignement à en tirer. Il y a quelque chose de plus grand. Moi, je suis très spirituelle et je suis très ancrée, j'adore la science, j'adore les neuros, j'adore. Mais par contre, je suis aussi très spirituelle et je l'assume complètement. Et en fait, je considère que rien n'arrive jamais contre nous. C'est une de mes croyances profondes. Rien n'arrive jamais contre nous, tout arrive pour nous. Donc, c'est en fait à nous, à notre capacité de voir derrière la situation le message, de voir ce que c'est censé nous apporter, ce que c'est censé nous, à quel point c'est censé nous grandir. Si on sait vraiment transformer le plomb en or dans chacune des situations que l'on vit, mais je vous assure, le ciel que vous tombez sur la tête, votre niveau de sécurité intérieure, il restera tellement fort. C'est ce que j'enseigne dans la maison. C'est ça, c'est vraiment, vraiment le truc qui compte le plus pour moi, je pense. Est-ce que ça va avec tout ça? Les émotions sont des messages cachés de nos blessures passées. Très souvent, les émotions, en fait, c'est pas du tout c'est pas du tout lié au présent. C'est pas du tout lié au présent. Ce sont des mémoires qui sont réactivées. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, des mémoires, en fait, de blessures qui sont réactivées dans leur charge émotionnelle et qui viennent être projetées dans le présent. Mais ça vient rarement du présent. C'est clairement, en fait, vraiment très, très rare. Les messagers de notre âme, vraiment les émotions, c'est une boussole. Et si vous savez les lire, si vous apprenez à les lire, en fait, ça vous guide. Quand on parle d'alignement, c'est aussi cette faculté à pouvoir en fait observer ce qui se joue. Je vous ai pas dit une chose très importante hier, c'est que quand vous êtes régulé, quand je parle de sécurité intérieure et de régulation profonde, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes régulé, vous êtes sécure, vous pouvez entendre les messages de votre âme, vous pouvez entendre ce qui se joue d'une manière beaucoup plus grande en fait pour vous, vous pouvez être beaucoup plus à l'écoute de vos émotions, beaucoup plus. Quand vous êtes dérégulé, c'est le bordel, mon colonel, ça part dans tous les sens, il y a 10 000 émotions ensemble parce que vous les avez pas processées, ça c'est important, quand vous êtes dispersé, que le système nerveux est dérégulé, c'est qu'il y a 10 000 en fait émotions que vous n'avez pas processées, vous les avez pas emmenées au bout du process, donc elles stagnent. Oui, ça c'est important. En tout cas, elles révèlent toutes un besoin et message profond sous-jacent. Désolée, je fais des fautes. Sous-jacent. Et en tout cas, ça permet à l'individu de profondément se réaligner. Profondément. Quand on sait les utiliser en fait à votre profit et qu'on n'est pas en train de les subir. Très souvent, quand c'est un espèce de tumulte émotionnel, qu'il y a plein d'émotions, etc., généralement, c'est qu'on n'a pas pris le temps de les processer et qu'on ne veut pas les écouter parce qu'elles nous montrent des choses qu'on n'a pas envie de voir. Alors, du coup, j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure, mais la proximité d'une émotion en accompagnement, c'est un indicateur fort de toucher du doigt un point sensible. C'est-à-dire qu'on est en train d'ouvrir une porte de l'inconscient, okay, on est en train d'accompagner une libération, à condition qu'il n'y ait pas d'émotion miroir. Ça fait partie des choses de toute façon qu'on traite dans la maison, vous expliquez ça. Et ce qu'il faut comprendre surtout, c'est qu'on a été éduqué dans un fonctionnement où les émotions, c'est quelque chose de malsain, c'est quelque chose de mal vu, on en a honte, il ne faut pas être trop chez les femmes d'ailleurs, je tiens à vous dire, que le mot hystérique n'existait pas. Il a été créé pour la femme. Donc voilà, mesdames, parce qu'on avait une grande intensité émotionnelle. En fait, non, c'est absolument faux. C'est juste parce qu'en fait, on est des êtres vivants et que les femmes, de base, ont tendance à beaucoup plus les exprimer en fait que les hommes. Mais c'est absolument normal. C'est une décharge du système. En fait, le système se décharge. Mais vraiment, c'est une décompensation mécanique, physiologique de votre système, de votre cerveau. Donc, imaginez, à chaque fois que vous ne décompensez pas alors que vous en avez besoin, ou que vous vivez un moment difficile et que vous ne décompensez pas, il stocke. Et après, on se dit, mais pourquoi j'ai mal à la tête? Mais pourquoi j'ai mal à... Ben, exactement pour ces raisons-là. Tout ce qui est réprimé s'imprime. Encore une fois, le signe qu'une personne est vivante, c'est l'expression pure du vivant dans toute sa panelle émotionnelle. C'est quelque chose qui vous agace, vous le dites, c'est quelque chose qui m'agace. J'en ai marre d'entendre du développement personnel bisounours, ça je peux plus l'entendre parce qu'en plus c'est hyper dangereux. Les gens qui vous disent non, mais si t'es trigger, c'est que t'as un problème. Alors, ça dépend de la fréquence, toujours pareil. Non, en fait, on n'est pas fait pour être lisse, on n'est pas fait pour être linéaire, mais pas du tout. Il faut, comme dirait Shrek, et je le dis souvent en conférence, ça fait beaucoup rire, comme dirait Shrek, c'est mieux dehors que dedans. Okay, je vous rappelle, Emovere, Energy, Emotion, la pleine expression de soi, ça passe par du mouvement, ça passe par l'extériorisation, ça passe par parler, ça passe par crier, ça passe par taper, ça passe par checker, tout ce que vous voulez, tout, enfin, plein d'outils dont on vous parle dans la maison, mais c'est essentiel. Pardon, merci de demander trigger, Priscilla. Trigger, donc c'est le mot anglais pour parler d'un système qui est, en français, je trouve qu'il n'y a pas bien d'équivalent, qui est challengé, qui est déclenché, qui est vraiment déclenché. Il y a quelque chose qui vous déclenche, par exemple une personne qui vous déclenche, une situation qui vous met en colère, c'est ça le trigger. Est-ce que tout est clair pour vous pour cette partie-là? Donc, cette deuxième étape, vraiment, cette deuxième saison, elle est essentielle parce qu'elle est basée, et je vais peut-être d'abord parler de ça en premier, elle est basée sur cette loi. Du coup, la loi universelle du vivant qui est la loi du vide. Il y a différentes saisons dans l'univers, dans la nature, dans la vie. Nous, on s'est inspiré de la roue universelle médecine du chamanisme pour créer notre protocole, pas que, parce qu'il y a de la neuro dedans aussi, mais en tout cas, tout ce qu'on fait est basé sur les lois biologiques, les lois universelles du vivant. Notre nature. Qu'est-ce que fait la nature avant de pouvoir arriver au printemps? Okay, elle a besoin de faire de l'espace, donc elle meurt. Okay, elle va perdre ses feuilles, elle va... laisser tomber en fait une partie de sa structure, elle va faire de l'espace pour que quelque chose de nouveau puisse entrer, pour que la sève puisse commencer à refaire sa place et à remonter progressivement pour que les bourgeons puissent éclore au printemps, etc. Mais pour ça, elle a besoin de mourir. Et nous, en fait, en tant qu'être humain, on ne prend pas assez le temps de nous décharger, de mourir, de laisser de l'espace. Tant que tout est rempli, comment voulez-vous que la vie fasse son œuvre? Ce n'est pas possible. Dans la transformation, c'est exactement pareil. Comment voulez-vous que la vie fasse son œuvre? Comment voulez-vous changer, intégrer de nouvelles choses si vous êtes déjà complètement saturé? S'il n'y a pas un pet de place dans votre vie? Je reviens sur mes... je voulais m'arrêter du coup rapidement sur votre corps. Comme j'ai commencé à en parler hier, sur votre corps qui est le véhicule de votre inconscient. Il y a une erreur qui est fondamentalement régulièrement faite, qui est de penser que la douleur se trouve dans le cerveau et que les mémoires émotionnelles se trouvent dans le cerveau. L'empreinte, en fait, est dans le cerveau, mais la mémoire est dans le corps. Ça, c'est important à comprendre. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne va pas juste travailler sur la rationalisation, l'intellectualisation, on est obligé de passer par le corps, en fait, d'aller dans ces mémoires profonde pour pouvoir changer la structure, pour pouvoir libérer. C'est pour ça qu'on ne peut pas libérer à partir de « Ah, j'ai compris !» Alors, non. Alors, moi, je suis une PNListe, hein, donc je suis une amoureuse des mots. Les mots parlent de vos métaprogrammations. Donc, quand je dis « j'ai compris », ok, super, t'as compris là, t'as pas intégré. Vous voyez, le champ lexical est très important en fonction des associations qui sont faites à travers les mots. Comment fonctionne l'inconscient? Alors, il y a une erreur massive qui est faite là-dessus quand on veut communiquer avec l'inconscient, c'est de lui parler avec la langue mentale. Ça ne marche pas. L'inconscient fonctionne de manière onirique et symbolique. C'est pour ça qu'on parle d'hypnose, c'est pour ça qu'on parle de PNL. Il ne parle pas le langage du mental, du langage PowerPoint, du langage humain. D'accord? Il ne parle pas ce langage-là. C'est ce qu'on utilise d'ailleurs beaucoup en kinésiologie, hein, on utilise beaucoup le langage onirique et symbolique. D'où l'importance d'apprendre à lui parler. L'importance d'être formé en fait à tout ça. Donc, d'où l'importance du psychosomatique, du travail voilà, autour de cette dynamique-là dont je viens de vous parler juste avant. Le travail du ressenti aussi. Tout le reste, je vous en ai déjà parlé. Tant que vous n'allez pas réinformer vos cellules, elles tournent dans la même boucle du passé. Ouais. Ce que je vous expliquais hier, c'est que parfois on agit sur la dynamique de la pensée, la dynamique de l'émotion, super, mais si on n'agit pas sur la structure corporelle, ça marche pas. Et puis parfois, on peut passer d'une dimension à l'autre en fonction des profils, des situations, etc. Nous, on a un protocole, donc dans la maison de coaching holistique, ce protocole que font nos coachs tout de suite en arrivant, et qu'on met après, bien sûr, en libre disposition à nos coachs, c'est un protocole. Donc là, je vous ai mis un tout petit bout du protocole. C'est ce qu'on appelle le protocole de déparasitage. Quand vous arrivez dans la maison, dans chaque nouveau projet, très souvent, on se lance dans un projet avec la même énergie qui a créé finalement en fait le blocage. On se lance dans un truc pour se débloquer, mais avec la même énergie qui a créé le blocage. Chez nous, ça n'existe pas. Ça ne marche pas. Vous pouvez mentir à qui vous voulez, mais nous, en tout cas, chez nous, ça marche, ça ne fonctionne pas et vous ne pourrez pas vous mentir. Et nous mentir non plus très longtemps. Le corps ne ment jamais. Donc nous, on propose en fait, quand vous arrivez, donc il y a tout un module d'introduction dans la maison, mais en tout cas, il y a un vrai protocole de déparasitage. Donc finalement, de déstructuration de ce que vous avez été et appris jusqu'ici. Ce protocole, il passe en revue, en fait, toutes les dimensions de votre être. Donc là, j'ai diminué, vulgarisé, parce qu'il y a beaucoup plus de choses. Il y a plusieurs vidéos, enfin, voilà, là, je l'ai simplifié, on va dire. Parce que je ne peux pas vous parler de tout. Je n'ai pas assez de temps. Il y a déjà beaucoup de contenu. En gros, c'est un gros nettoyage de printemps de tout votre être. Voilà. Vous le faites très bien pour vos maisons. J'imagine que vous le faites très bien pour votre environnement. Bah, là, on le fait intérieurement. Donc, c'est une remise à zéro, ce qu'on appelle le reset. Et on passe en revue, en fait, vos différentes dimensions pour voir aujourd'hui ce qui vous a conduit à vivre ce que vous vivez et voir si vous voulez garder ou pas. Donc, on remet beaucoup d'intentionnalité. Est-ce que vous voulez garder ces pensées-là? Est-ce que vous voulez garder ces croyances-là? Est-ce que vous voulez garder cette identité-là? Est-ce qu'au niveau de votre cœur, il y a des émotions, des ressentis que vous avez refoulés et que vous tractez, vous savez, comme des boulets, des loyautés familiales? Est-ce que vous avez... C'est vraiment un nettoyage énorme. Enfin, les gens, souvent, quand ils arrivent dans la maison et qu'ils font le premier module, ils sont là, oh my God, oh wow, le niveau de transformation. Voilà, les deuils, tous les deuils que non réalisés, tous les deuils que vous n'avez pas encore faits, les vieilles affaires de votre ex-conjoint qui traînent encore dans votre maison, le vieux plaid qui appartenait à votre ex-conjoint. Non, mais je le garde parce que énergétiquement parlant, est-ce que ça maintient, est-ce que ça a un impact sur votre identité, sur votre niveau d'énergie? Est-ce que ça maintient pas votre inconscient connecté à cette personne-là à travers des liens invisibles? Tous les liens voilà, invisibles de loyauté, les vieux comportements. Moi, je me rappelle toujours mes premiers coachings symboliques, donc sur l'inconscient. Là, on en fait beaucoup dans la maison. Il y avait un exercice, c'était le principe du carton. Ça, c'est très symbolique, ça parle à votre inconscient et pas à votre mental. Quand je vous dis que c'est comme ça qu'on agit profondément, c'est l'exercice du carton. C'était un challenge pendant 15 jours. Il fallait du coup avoir un carton en plein milieu de son salon. Et sur ce carton-là, il y avait écrit absolument tout ce qui nous posait, tous les liens en fait invisibles. Donc, on avait fait un travail préalable avant. Il y avait écrit tout ça. Et en fait, l'objectif, c'était de matérialiser. Vous vous rappelez, l'inconscient cherche un support de projection. Matérialiser tout ça pour pouvoir ensuite le libérer, l'apaiser sans défaire. J'en avais marre de ce carton, je tapais dedans tous les jours. Mais en fait, c'est bien conçu pour vous faire chier, voyez, pour vous finir par vous challenger, faire remonter toutes les émotions à la surface qui sont en lien avec ça. J'en avais marre, je tapais tous les jours dedans. Je pouvais plus le blairer. Et je vous dis pas les phases de libération extraordinaires que j'ai vécues grâce à ça, mais l'espace que j'ai créé grâce à ça. Et sans que ce soit, voyez, dans du forcing à challenger, à mettre en place des choses. Non, c'était à travers un coaching symbolique, du coup. La dimension physique, voilà. Est-ce que aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de vous parasiter, concrètement parlant, au niveau de vos dimensions physiques? Ça, c'est vraiment un protocole essentiel qu'on transmet de manière complète aux consultants de mes coachs. Enfin, mes coachs leur transmettent une fois qu'ils sont formés dans la maison. Et je vous assure, ça fait. Ah oui, je l'ai fait dans le programme Sagesse Ancestrale. Ouais, il est génial, tu vois. Ça fait vraiment l'effet d'une bombe. Ce protocole de déparasitage, ça fait un espèce de grand bilan de votre vie, quoi. Vous voyez, vous êtes face à ce truc de oh waouh, en fait, si j'ai créé ça, ça veut dire que je peux aussi créer autre chose. Ok, je reprends la pleine mesure, la pleine responsabilité, je me mets face à tout ça, en plus d'être accompagnée dans ça, mais est-ce que ce que je fais aujourd'hui, ça me sert ou est-ce que ça me dessert? Et quand on a envie d'accompagner, en fait, c'est toute une nouvelle dynamique, une nouvelle identité qui se crée. Donc, c'est important, quelque part, de repartir un peu de zéro pour voir ce qui nous pèse encore, ce dont on peut se défaire, etc. Donc, voilà, le mouvement, les habitudes, les comportements. Est-ce que j'ai mis en place cette routine-là parce qu'on m'a dit que c'était bien pour moi? Mais est-ce que c'est vraiment bien pour moi? Parce que nous, on vous emmène à ce niveau de leadership-là. Est-ce que c'est sain et bon pour vous? Et nous, on ne va pas vous dire ce qui est bon pour vous. Par contre, on va vous montrer le chemin pour vous emmener vers votre vérité et ensuite accompagner, du coup, les gens à en faire de même. Le travail énergétique, le bien-être, le plaisir, l'âme, la mission de vie, le plaisir, c'est tellement important. À quel degré est-ce que vous avez du plaisir dans votre vie? Parce que ça aussi, ça vient générer quelque part de l'énergie vitale. Et je ne parle pas du plaisir éphémère, hein. Je suis vraiment en train de parler de quelque chose. Votre corps, c'est une machine sensorielle, en fait, de kiff, quoi, à travers vos cinq sens. Est-ce que vous pouvez, ça c'est du tantra, mais est-ce que vous pouvez ressentir à quel point c'est bon de juste de sentir le contact de l'air sur votre peau, de vos pouces, de l'eau chaude sur votre peau, de toutes ces choses-là. En fait, on s'est tellement éloigné du vivant, on est en mode « Allez, on se dépêche, il faut vite faire. » On n'est pas fait pour survivre, on est des êtres vivants, on est fait pour vivre en fait, pour aller dans le plus de vivant, d'exaltation, de toutes nos émotions, en fait, de toutes nos palettes émotionnelles et arc-en-ciel possibles. L'âme et la mission de vie, c'est important aussi. Moi, j'ai beaucoup voyagé et aux quatre coins du monde et particulièrement en Inde. Là-bas, on a des préceptes et dans le bouddhisme aussi, des préceptes autour du dharma. D'ailleurs, moi, j'ai été tatouée là, en bouddhisme. Le dharma, c'est vraiment, en fait, l'élan de votre âme, c'est ce pourquoi vous êtes là. Si vous êtes là ce soir, c'est qu'il y a quelque chose autour de la contribution, de l'humain, de l'accompagnement. Moi, j'attire souvent des personnes comme ça. Et ça, c'est une dimension qui est importante à considérer. Si votre âme n'est pas nourrie, vous n'arriverez pas à vivre dans votre plein potentiel. En fait, il vous manquera toujours un petit truc. En fait, il vous manquera toujours ce petit truc, cette connexion à quelque chose de plus grand, à une mission, au monde en fait. À comprendre que chaque personne sur cette terre vient contribuer, c'est l'effet papillon, mais vient contribuer à quelque chose de plus grand. Et cette place, cette reliance à quelque chose de plus grand, elle est essentielle. Et enfin, au niveau environnemental, dans vos relations, votre lieu de vie, on a parfois des lieux de vie qui sont là pour supporter une étape de notre parcours, de notre croissance. Et puis ensuite, ces lieux de vie-là, on doit les quitter pour pouvoir évoluer. On a parfois des relations pareilles qui sont censées nous apporter quelque chose, une ressource sur un temps donné. Et une fois qu'on l'a acquise, en fait, ça peut paraître ingrat, mais c'est vrai. Et bien en fait, on va se séparer pour aller vers d'autres personnes. Il y a des gens qui vous tireront là vers le haut. C'est pour ça que je suis tellement chiante avec la communauté, avec le lien dans la maison. Parce qu'en fait, ce lien-là, d'être entouré de gens qui vous montrent que c'est possible, que ça existe, que c'est normal même, que c'est normal pour eux. Enfin, c'est normal en fait pour eux. C'est une normalité d'avoir des clients, c'est une normalité de bien gagner sa vie en faisant ce qu'on aime, c'est une normalité. Ça montre à votre système nerveux en fait que cette norme, elle est possible. Et ça vient grâce au principe de modélisation en neurosciences, ça vient modéliser. Vous allez créer grâce à vos neurones miroirs quelque chose qui s'y apparente à votre manière, mais quelque chose qui s'y apparente, ça normalise. Ça, c'est pareil, si aujourd'hui en fait tout ça, ça ne vous nourrit pas, venez dans, enfin, vous allez voir dans la maison, si vous vous postulez, si vous candidatez et que vous êtes reçu, vous verrez à quel point votre vie va, voilà, va prendre une nouvelle tournure, mais forcément pour le meilleur. Donc ça, c'est un protocole, protocole de déparasitage, on enlève les parasites. Je donne souvent cet exemple très concret. Si vous voulez planter une graine, d'accord, la graine du changement, la graine de la transformation, vous voulez voir voilà, votre vie idéale naître d'ici, je sais pas, 1, 2 ans, 3 ans, peut-être 6 mois, j'en sais rien, en fonction de votre vision du court, moyen, long terme. Bah, très clairement, si je veux qu'une fleur pousse, il faut que je prépare le terreau. D'accord, il faut que je prépare la terre, que la terre soit fertile en fait. Donc, il faut que j'enlève les mauvaises herbes, peut-être que je vais mettre de la permaculture, peut-être que je vais arroser, etc. Bah, du coup, d'abord, je vais déparasiter, ensuite, je vais nourrir le terrain. Bah, en fait, imaginez que le terrain, du coup, c'est votre être et la graine, c'est la transformation, votre rêve, votre désir, ce que vous voulez. On prépare tout le terrain de la conscience à la transformation, je le répéterai jamais assez. Un terrain qui n'est pas préparé, du coup, à la transformation concrète, vous aurez des résultats, mais ça ne va pas durer. Votre système, il ne va pas les tenir, en fait. Donc, vous allez avoir 3 mois de « Oh, trop cool !» Puis l'accompagnement va peut-être s'arrêter. Et en fait, vous allez repartir dans vos schémas. C'est exactement ce pourquoi ben, certains faits ne vont pas au bout de la transformation. Ma loi du vide, que j'aime tant. Chacune, du coup, des grandes étapes de notre accompagnement est basée sur une loi fondamentale du vivant, une loi biologique. Hier, par exemple, je ne vous en ai pas parlé, mais la régulation du système nerveux, elle est bâtie sur la loi du rythme. Il y a un rythme pour chaque être. Chaque être a son rythme. Et le danger, c'est de vouloir coller son rythme à la dernière tendance, la dernière stratégie, le dernier truc à la mode. Non, mais tellement pas. Les dangers, c'est de vouloir aussi, du coup, ben, donner un rythme, son rythme propre en tant qu'accompagnant à son consultant. Mais non, absolument pas. En fait, on rompt avec la singularité de chaque être. Et c'est pas juste, c'est pas OK. Du coup, je vous propose une petite pratique de libération émotionnelle. J'ai pas mis les protocoles entiers parce qu'on n'a pas le temps, vraiment pas suffisamment le temps. Mais en tout cas, là, on va prendre quelques minutes pour le faire. Et puis, de toute façon, si j'ai pas le temps de faire le décodage ce soir, on le fera demain. Vous aurez quand même la trop belle ressource et le trop beau bonus qu'on va vous partager. Pareil, c'est un bonus qui est payant normalement. Donc, profitez-en. Les bonus et les replays seront disponibles 7 jours. Le temps de l'ouverture des portes de la maison. Ce que je vous propose, c'est comme tout à l'heure. Alors, normalement, ça, c'est plutôt une pratique qui se fait allongée. Mais vous pouvez la faire assise parce que l'avantage là, c'est qu'en fait, ça va pas rompre avec la dynamique de la coaching week. Mais vraiment, ça garder les pieds bien ancrés, je pense, ça va être essentiel. Sachez que vous pouvez la refaire chez vous, allongée. C'est une pratique qui vient des neurosciences et que nous on a couplé avec de la psychopratique. Donc installez bien l'entièreté de vos pieds au sol. On va venir sortir la charge émotionnelle d'un blocage, peu importe d'un ressenti, d'une mémoire, ce que vous allez vouloir travailler ce soir, ça vous appartient. Moi, là, je l'accompagne d'une manière collective. Vous comprenez bien que c'est différent d'une séance individuelle, que c'est différent de ce qu'on fait dans la maison. Mais là, c'est pour vous donner en tout cas un avant-goût. Ce que je vous invite à faire, donc, c'est bien déposer les pieds au sol, les talons bien ancrés. Essayez d'installer les ischions dans la chaise. Si vous voulez vous allonger, emmenez votre live, votre téléphone, ce que vous avez à côté de vous, vous pouvez le faire aussi. Et je vais simplement vous demander de relâcher votre dos. Il y a des pratiques qui vous demandent d'avoir le dos tendu vers le ciel. Là, relâchement total. Au contraire, imaginez que vous êtes détendu, que vous êtes potentiellement, je ne sais pas si vous pouvez vous mettre sur un canapé chez vous, tranquille, la posture la plus confortable qui soit. Et là, on va tout relâcher, complètement relâcher, relâcher les bras, relâcher les épaules, tout ce que vous voulez. Ça peut potentiellement être inconfortable en fonction du degré de connexion que vous avez avec vos ressentis. Mais c'est essentiel d'aller les prendre en charge. Là, je vais vous laisser fermer les yeux et simplement respirer à l'intérieur de vous. Vous pouvez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et je vais vraiment vous inviter à faire monter cette respiration du cou, jusqu'au sommet du crâne, et à la faire redescendre jusqu'au bout des orteils, comme si vous pouviez guider la respiration, qu'elle pouvait passer au niveau cellulaire, qu'elle pouvait graviter dans chacun des pores de votre être, dans chacune des cellules. Chacune des inspirations peut peut-être vous agrandir, vous étirer. Et chacune des expirations, au contraire, vous ancre, vous fait vous déposer, vous sentir plus lourd dans votre support. Et puis je vais vous demander de vous connecter à un ressenti que vous avez peut-être dans le corps, là tout de suite, maintenant. Il y a peut-être un espace qui est inconfortable, qui est contracté. Peut-être qu'il y a une émotion. Et s'il n'y a rien maintenant, peut-être que dans la journée, aujourd'hui ou il y a quelques jours, il y a une émotion, un moment, une situation. Il y a quelque chose qui s'est produit, qui vous a fait ressentir. Une émotion. Et je vais simplement vous demander de vous y connecter, de vous installer avec quelques instants. Sans chercher à la changer, à la transformer, rien de tout ça, juste d'être avec ça. Où est-ce que ça s'exprime? Dans votre corps, où est-ce que c'est? Quel siège ça a? Est-ce que c'est plutôt dans la gorge? Est-ce que c'est plutôt dans la tête? Est-ce que c'est plutôt de juste, en fait, pouvoir commencer à mettre un siège, peut-être une forme, peut-être une couleur, à le rendre, en fait, quelque part palpable? Et lorsque vous serez avec ça et que vous aurez peut-être cette forme, cette matière, que vous lui aurez quelque part donné vie, en fait, que vous l'aurez donné une reconnaissance, simplement le regarder quelques instants intérieurement, de rester avec ça. Et quand ce sera OK pour vous, que vous aurez été avec, en présence de ça, je vais vous inviter à imaginer que vous pouvez le sortir de vous. Vous voyez, si c'est au niveau de votre plexus, ça va. Cette forme, cette couleur, cette chose-là, OK? Vous pouvez peut-être même lui donner un nom, va sortir de vous, juste légèrement au-dessus de votre corps, en fait. Va venir s'extraire. Ça existe toujours, c'est là, simplement ça va sortir de vous pour se mettre en au-dessus de vous. Toujours en gardant ce visuel, cette couleur, ce que vous lui avez, la forme, l'existence que vous lui avez donnée. Et une fois que vous l'avez extrait de vous, je vais vous demander si c'est possible avec tout votre amour sur une très grande inspiration, sur la prochaine expiration, de faire en sorte de la faire disparaître de la manière dont vous voulez. Peu importe la façon dont vous allez l'utiliser, peut-être que vous allez pouvoir l'effacer, peut-être que vous allez pouvoir la brûler, peut-être qu'elle va se dissoudre. Utilisez la manière que vous voulez, peut-être associer vos mains à un geste si c'est nécessaire pour vous, juste en fait. pouvoir l'effacer. Avec beaucoup d'amour, on ne cherche pas à repousser, on a pris tout le temps nécessaire avec cet espace-là et on continue de lui envoyer de l'amour, il nous a servi, il nous a apporté, mais là maintenant, on n'en a plus besoin. Et quand c'est fait, je vais juste vous demander de revenir avec vous et d'observer comment vous vous sentez. Prenez le temps. Et progressivement de revenir dans l'ici et le maintenant avec nous. Et si vous le souhaitez, de vous déposer, de partager pour intégrer. Je vous ai dit à chaque fin du coup de process, c'est important qu'il y ait une mise en mouvement. Cette mise en mouvement, ça peut être de nous partager ce que vous avez vécu, ça peut être de le partager à quelqu'un ce soir, ça peut être de déposer un mot dans le chat, ça peut être toute autre action que vous allez pouvoir faire derrière, mais il y a forcément une légère mise en mouvement qui va permettre d'ancrer, même si là, le protocole est très petit et pas aussi développé qu'on le fait habituellement, de simplement pouvoir accompagner sa finalisation. Comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens plus légère et un peu plus calme aussi. Ouais. Et encore là, on n'a pas poussé. Normalement, il est beaucoup plus long, le protocole. Plus zen, libéré d'un poids. Moi aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Vraiment beaucoup, beaucoup de bien. J'avais un peu mal à la tête. J'avais comme des espèces de... Vous avez des portes blindées, là, qui se structuraient. Et hop, j'ai sorti. Et waouh, oh, oh, incroyable. J'adore cette pratique. Elle est... Bon, maintenant... Oui, vraiment, vraiment, merci. Avec joie, avec joie. Ok, prenez le temps de revenir à vous. Et voyez à quel point c'est important, en fait, d'avoir cette notion-là. Ça, vous ne le ferez pas dans le coaching traditionnel. C'est important, vraiment, d'avoir ces notions-là très profondes aussi. Et tout ce travail au niveau neuro. J'ai libéré une sorte de plastron vert au-dessus de la gorge, un ressenti légèreté. Génial, Sandrine, trop bien. Je suis ravie de le lire. Ok. Du coup, on continue. J'ai l'impression que mes organes ont plus de place à libérer l'espace. Oui, c'est l'objectif, Marina. C'est exactement ça, en fait. C'est que chacun de vos organes, aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé, chacun de vos organes, en fait, a un fonctionnement qui lui est propre à son espace de conscience. Et parfois, quand on est surchargé, en fait, les organes ne communiquent plus du tout entre eux. Et ça, c'est très dangereux, du coup, dans la mécanique synergique de l'être. J'ai l'impression d'avoir réussi, je me sens plus légère, j'ai l'impression d'avoir réussi à sortir un blocage sur mon niveau d'énergie qui me protégeait. Oh waouh, trop cool, Caro. Je suis très heureuse de le lire. Trop bien. Votre corps, tous les jours, il vous envoie des messages. Là, ce que vous vivez, c'est ce que vous avez vécu, c'est aussi un moment de connexion avec lui. Et celui de votre client, il vous envoie aussi des messages. Et savoir les décoder, en fait, c'est vraiment essentiel. C'est pour ça que nous, on a créé la pyramide de décodage humain. Donc, hier, si vous vous rappelez bien, là, je ne vais pas trop développer. On en parlera un petit peu demain. Désabusé par quelqu'un. J'arrive mieux à déglutir, du coup, j'ai envie de chanter. Ah, c'est génial. En plus, chanter, Céline, ça active le nerf vague. Donc, c'est hyper bien pour la régulation du système nerveux. Donc, chante, chante. Ton mouvement de ce soir, ta mise en mouvement, c'est après le live ou là maintenant, d'ailleurs. Tu chantes. Si tu étais avec moi en formation, je te proposerais de chanter devant tout le monde. Je l'ai fait dernièrement avec une de mes dirigeantes. C'était très chouette. Pour pouvoir justement activer tout de suite le profit de cette pratique. La pyramide de décodage humain, elle arrive, elle est là. Hein. Mais du coup, hier, on s'est arrêté vraiment sur la partie plus physique, plutôt biologique, vous voyez, plutôt physiologique. Aujourd'hui, on était sur la partie plutôt émotionnelle, très clairement. Et puis, ben, dans les prochains jours, en fait, on intégrera ces trois autres parties-là. C'est vraiment cette pyramide-là, c'est vraiment ce qui va vous permettre, en fait, de décoder votre client, de lire profondément ce qui se joue en séance, parfois même avant qu'il ait besoin de parler. C'est ça qui est trop cool. Et c'est la structure pour des résultats rapides et profonds. Bien sûr, c'est un outil qu'on a breveté chez nous et qui compile plein d'éléments. Vous allez voir les unités d'élite, l'analyse comportementale, le profilage, la psychomorphologie, plein de trucs. Je ne vais pas tout détailler ce soir, mais je voulais quand même vous donner. Vous allez recevoir en bonus, de toute façon, la pyramide de décodage humain. Alors, je ne vous donne pas la totalité, vous imaginez bien que ça fait partie des choses qui sont réservées à la formation. Mais par contre, vous allez recevoir une masterclass d'une heure sur le sujet où encore une fois, 7 jours après, on l'enlèvera parce que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur, où je décrypte. Pourtant, je suis très, très complexée de chanter, je chante très faux. Bah, justement! Justement, encore plus, montre à ton système nerveux que c'est possible. La masterclass où je décrypte vraiment du visible, à l'invisible. Là, je voulais juste m'arrêter ce soir sur 5 repères cliniques pour évaluer l'état physiologique de votre client et d'adapter vos outils à ses besoins. Je vous l'ai dit. En face de vous, vous avez des êtres humains uniques, en fait. Donc, vous ne pouvez pas... Pourtant, des fois, vous allez avoir deux personnes qui ont la même problématique, mais vous n'allez pas la traiter de la même manière. Vous n'allez pas absolument pas coacher deux personnes qui ont la même problématique parce que pas la même histoire, pas la même physiologie, pas le même état interne, pas les mêmes sujets à traiter. Donc, vraiment, pas les mêmes émotions. Enfin, voilà. Voici 5 repères cliniques pour évaluer l'état physiologique de votre client et d'adapter, du coup, vos outils à sa saison et à ses besoins. Le premier repère clinique, c'est la posture. La posture, elle veut dire tellement de choses, tellement. J'ai fait beaucoup de réels, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez me voir. Je fais beaucoup de réels là-dessus, où je décrypte les différents profils psychomorphologiques. La posture, voilà. Est-ce que j'ai une posture qui est ouverte, qui est nonchalante? Est-ce que j'ai un croisement? Est-ce que j'ai une inclinaison? Est-ce que j'ai le buste qui rentre à l'intérieur et les épaules, du coup, qui sont plutôt fermées? Qu'est-ce qui se joue, en fait, au niveau de la posture? Il y a tellement d'éléments à analyser à partir de ça qui vous permettent, vous, d'aller creuser, qui vous permettent, en fait, d'avoir une base tout de suite. Dès que la personne, elle arrive, vous ne partez pas de zéro, votre mental, il n'est pas en PLS en disant « mince, qu'est-ce que je vais devoir traiter aujourd'hui parce que vous manquez de structure, vous manquez de connaissances, vous avez le syndrome de l'imposteur ». Ça n'existe pas chez nous. Voilà, ce sont des petits éléments, mais des éléments qui sont essentiels, tout le travail postural, tout le langage non-verbal. Vous voyez que le comportemental, le non-verbal, le paraverbal, le paraverbal et le non-verbal, je vais y arriver, ça fait partie des éléments essentiels de la pyramide, hein, de la fondation complète de la pyramide. Les gestes, les attitudes, les réactions, les actions, les habitudes. Et derrière, du coup, tout ce qui est caché, tout ce qui est refoulé, il y a tellement de moyens de le lire. À travers, par exemple, aussi la respiration, ça, c'est un test que j'adore faire quand on est en immersion, on travaille beaucoup là-dessus, c'est de vous donner des exercices de respiration et de voir, en fait, dans les praticiens, hein, que j'accompagne, de les voir, en fait, respirer et de leur permettre de se connecter aux endroits où la respiration, elle fluctue pas correctement, où l'énergie, elle fluctue pas correctement. Il y a tellement de choses à faire là-dessus. Est-ce que la respiration est haute? Est-ce qu'elle est diaphragmatique? Est-ce que D'ailleurs, j'ai écrit dysphare, mais c'était diaphragme. Est-ce qu'elle est diaphragmatique, du coup? Est-ce qu'elle mobilise tout l'appareil pulmonaire? Est-ce que le diaphragme est bloqué? Et donc, la respiration est thoracique. Tout ça, ça fait partie des choses qu'on vous apprend dans la maison, en fait, à lire. C'est tellement essentiel. Déjà, vous le vivez pour vous. Ça vous permet de décortiquer, de décoder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais en dehors de ça, ça permet véritablement d'aller plus loin dans l'accompagnement et de gagner du temps, en fait, de taper dans le mille assez rapidement, d'analyser. Enfin, c'est moi, j'adore. Vraiment, j'ai passé, je vous le dis, hein, j'ai dit hier, j'ai passé des heures dans le métro parisien quand je me formais à l'époque. Et après, quand j'étais dans une autre vie, je portais l'uniforme. Et en fait, à regarder, à analyser, à observer les gens, c'est juste fascinant. Tout ce qu'on peut lire sans qu'une personne ne nous parle. Pareil, tout le langage non verbal, en fait, la structure du visage, ça, on l'apprend en psychomorpho. C'est tellement intéressant d'aller voir, en fait, la structure des rides. J'en ai parlé dernièrement avec Jim Carrey, allez voir mon réel là-dessus, où je décortique son visage et les rides, ce que veulent dire les rides sur son profil, etc. C'est vraiment fascinant. Les micro-mouvements, est-ce qu'il existe des micro-mouvements? Est-ce que la personne, vous voyez qu'elle fait toujours, elle a un stylo dans les mains, elle fait, ou est-ce qu'elle a la jambe qui tapote? Est-ce qu'il y a un micro-tremblement? Ça veut dire plein de choses sur l'état du système nerveux, sur la neurophysiologie, et croyez-moi, c'est essentiel à observer. La couleur de peau, pareil, quand on accompagne, la couleur de peau peut fluctuer en fonction du niveau d'oxygénation, du niveau de stress de l'individu. Quand on fait des protocoles, on a du coup toute cette partie-là au niveau de la nuque et bon, généralement les gens ils vont être sûrs, donc on ne voit pas, mais la partie du cou ici, là, qui est hyper réactive en accompagnement. Donc ça, c'est pareil, ça permet de voir en fait ce qui se joue, est-ce qu'il y a une émotion qui est en train de monter. Pareil, le travail de l'iris, moi, c'est un des trucs que je préfère dans l'accompagnement. Souvent, je vois les émotions des gens arriver avant qu'eux ne le vivent. Ça, c'est l'art de taper dans le mille. J'adore. C'est vraiment mon art. J'adore ça. Pareil, le tonus vagal aussi. On peut lire à travers, en fait, plein d'outils ce que le corps a à nous dire avant que les gens ne parlent. Et des fois, les gens sont déconnectés de leur corps. Donc, vous avez besoin de pouvoir lire dans leur corps avant qu'eux, en fait, n'y parviennent. C'est essentiel. Parce que parfois, ils sont tellement déconnectés de leur émotionnel, de leur corps, de leur ressenti, qu'en fait, vous n'aurez pas d'éléments à ce niveau-là de leur part. Donc, vous allez plafonner à ce qu'ils vont vous dire et ce qu'ils vont vous dire au niveau intellectuel, au niveau mental. Donc, c'est pour ça qu'en fait, la plupart des accompagnements aussi restent au niveau du mindset et de la tête. C'est aussi pour ça que ça fonctionne pas. Parce que la plupart des gens n'ont pas ces outils-là. Il y a des années d'expertise quand même hein, derrière. Donc voilà, je ne vais pas m'arrêter plus que ça. Je pense que je vous en reparlerai demain plus en détail, puis ça vous allez avoir la masterclass. Mais en tout cas, la pyramide, elle a vraiment... Alors là, je vous donne l'outil, mais on la développe beaucoup, beaucoup plus dans la maison. On s'arrête à chaque strate en vous donnant les outils, parce que forcément, à chaque strate, on a des outils différents qui sont hyper intéressants. Vous voyez, toutes les techniques voilà, de manipulation, on peut avoir de la manipulation, mais complètement inconsciente. Attention, la manipulation n'est pas que malsaine. On peut avoir de la manipulation inconsciente, des mécanismes de protection, de rejet, de défense qui sont mis en place. Ben, ça, c'est pareil, ça fait partie des outils de psycho qu'on vous donne pour apprendre à les lire, pour aller derrière le mécanisme, savoir ce qui se cache profondément. Voilà, il y a plein de choses super intéressantes qui vous permettent d'observer et qui vous permettent aussi d'anticiper. Le coach a toujours 3 coups d'avance. C'est une nécessité. S'il n'a pas 3 coups d'avance, il y a un problème quand même. Il y a vraiment un problème. Il doit pouvoir lire en fait ce qui se joue, mais entre les lignes, quoi. Donc, cette pyramide, elle permet de décoder l'être dans sa globalité. En fait, à chaque strate correspond une dimension de l'être, comme vous pouvez l'observer. On a intégré la dimension de l'influence, de l'environnement, de la systémie, parce que moi, je travaille beaucoup avec la systémie. La systémie, en fait, c'est finalement la capacité d'un individu à s'intégrer dans différents cercles d'influence, en fait, et la capacité, finalement, de cet individu à rentrer en lien avec ces différents cercles d'influence-là. Quelle place il prend, quelle dynamique se joue, les dynamiques relationnelles, les dynamiques d'attachement, les dynamiques communicationnelles, etc. Et ça, c'est vraiment important, bah, notamment si vous voulez intégrer en entreprise, ça va être essentiel. Cet outil-là, il va vous faire cartonner. Bah, vous allez voir qu'on peut l'utiliser aussi sur une organisation. Donc, c'est assez puissant. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Ouais, tout en haut, on retrouve la dynamique vraiment identitaire. C'est vraiment le Graal. Enfin, en fait, tout ce qui bâtit votre identité aujourd'hui, c'est la somme de tout ça. C'est la somme de vos comportements verbaux, non-verbaux, de vos émotions, de vos croyances, de vos valeurs, de vos relations, de votre environnement. C'est pour ça qu'en fait, on traite de l'identité, en tout cas en dernier, parce qu'en fait, on la bâtit vraiment. À partir de tout ça. Donc, on analyse d'abord tout ça et c'est ce qui nous donne la résultante identitaire. J'adore cet outil. Vraiment, c'est une bombe humaine. C'est une bombe humaine. Important, faites attention. Sandrine, est-ce que tu es dans la place? Est-ce que vous avez des questions sur cette pyramide? Sur mon bijou? Sandrine, Sandrine. J'ai quelqu'un à vous présenter. Ce soir encore. Il y a une personne hier qui était intéressée pour du coup avoir des informations sur l'intégration de la. Et Sandrine, alors attends, faut que j'enlève mon écran. Voilà, et je le laisse comme ça. Du coup, il nous reste une minute.
Je teste si vous m'entendez.
Oui, on t'entend très bien, Sandrine. Je vais te laisser la parole, comme je vous l'ai dit à chaque fin de replay. J'ai souhaité faire intervenir des magnifiques personnalités et pour le coup, Sandrine est diplômée de la maison. Des experts aussi du vivant à leur manière qui ont aménagé la formation à partir de leur histoire, de leur personnalité, de leur projet. Et je crois qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées aussi parce que toi, ce Sandrine, tu l'as développé au niveau de l'entreprise. Donc ça va être super enrichissant, mais je te laisse voilà, la main t'exprimer, te présenter.
Ben, écoutez, déjà, je suis ravie d'être avec vous ce soir et puis de pouvoir témoigner de mon expérience et surtout voilà, l'avant, l'après de la formation Maison du Coaching. Ce qui était important pour moi de commencer par partager avec vous, c'est que j'ai commencé la formation en novembre 2024, mais avant ça, j'avais expérimenté différentes choses autour de l'humain. Je viens plutôt du monde des sciences économiques et sociales. Il y a le mot social et humaine à l'époque. On le dit plus maintenant, mais vraiment sur la partie humaine. Et j'ai eu un parcours plutôt orienté business, commerce. Et j'ai toujours mis le facteur humain au centre de tout ça. Et ça a commencé même dans mes cours d'achat, où à l'époque, j'avais ma professeure d'achat qui était docteur S en PNL. Donc déjà à l'époque, et ça commence à dater un peu. Mais néanmoins, j'ai voilà, utilisé des outils, j'ai pu avoir des connaissances, des pratiques, mais dans un contexte professionnel, au travers du business, du commerce, des achats, de la négociation, PNL surtout en négociation. Et à un moment dans mon parcours, j'ai voulu aller plus au service de transformation dans les entreprises, que du coup, au fil des années, il y a pas mal de transformations en entreprise qui se sont accélérées, notamment avec le digital. Je suis plutôt dans le domaine des transformations digitales, des organisations. Et on parle de techno, mais c'est plutôt le facteur humain qui est au centre de tout ça. Bien souvent, on me demande de déployer, je déteste ce mot-là, des outils, mais tout le travail de conduite de changement, et aujourd'hui mon métier, c'est responsable conduite du changement, c'est tout ce qui est autour du facteur humain. Et au travers de mon expérience professionnelle, je me suis aperçue qu'il y avait une nécessité d'aller plus loin que de mettre en place des outils plutôt orientés gestion de projet au niveau de la capacité. Pardon, j'ai mon fils qui intervient. Je ne suis pas disponible.
Tu peux juste dormir chez toi, quoi. Il est posé à 9 h.
Ok.
Merci, bisous, à demain.
À demain. Donc, je suis maman de deux enfants, dont un qui est un système nerveux un peu coupé. Et ce dont j'ai pu me rendre compte en entreprise et dans mon métier de conduite du changement, c'est que le facteur humain nécessite d'être accompagné, mais d'une manière qui est vraiment humaine. Et d'ailleurs, dans mon métier, j'ai été amenée à m'intéresser aux risques psychosociaux. Et pour moi, aborder le changement d'entreprise, c'est avant tout cela. C'est apporter un accompagnement qui évite les risques et qui permet de développer les pleines compétences et le plein potentiel en fait des personnes dans l'incertitude. Et à un moment, 2024, j'ai eu besoin de me recentrer justement sur le coaching. J'étais beaucoup dans le faire de la conduite du changement et être en contact avec de nombreuses personnes. Et je voyais qu'il avait besoin d'aller vers d'autres outils qui étaient plus en lien avec le coaching. Et en novembre 2024, j'ai pu participer à un webinaire tel que tu le mènes aujourd'hui, Eugénie. Et j'ai trouvé que ton approche était vraiment en lien avec une approche profonde sur l'humain. Comme je le disais, le facteur humain et psychologique m'a toujours intéressée, même appliqué à des domaines marketing, commerce. Mais là, je voulais vraiment aller en profondeur sur ces sujets-là. Et la formation que tu as proposée était complètement alignée avec mes attentes du moment. Et c'était un bon moment pour moi pour le faire. J'avais besoin aussi de passer par différentes étapes, dont mes propres transformations. Parce que donc je vous parle de 2024, mais en 2020, j'ai tout changé dans ma vie en 2 ans, ce qui est quand même assez court, sauf mon employeur et mes 2 enfants. Et je suis convaincue qu'il y a besoin de vraiment pouvoir le vivre, en fait, pour pouvoir le transmettre. Et au travers de ta formation, Eugénie, il y a tout cet apport-là, effectivement, de le vivre soi-même, pour pouvoir le ressentir, se décoder soi-même pour ensuite aller vers les autres. Et c'est vraiment tout ce que tu nous as dit ce soir encore. Ça commence à partir de soi pour pouvoir rayonner vers les autres. Et je fais le lien aussi avec ce que tu expliquais ce soir, la loi du vide. Je l'ai appris en théorie, en conduite du changement. Il y a des modèles, le modèle de Bridges en parle. Mais là, encore une fois, c'est d'aller plus loin dans la compréhension du pourquoi cet outil pour pouvoir, du coup, derrière, l'appliquer, j'ai envie de dire, en toutes circonstances. Et ce qui est intéressant dans ta formation Eugénie, c'est que tu vas, au travers des outils, les mettre en situation sur différentes situations. On croise à chaque fois les concepts, les pratiques, ce qui donne, je trouve, une palette assez large d'applications. Et d'où, du coup, l'application, pas seulement dans des coachings individuels particuliers, mais aussi en entreprise.
Ouais, je rebondis là-dessus. Je pense qu'en fait, c'est ce qui me fait vibrer, c'est que vous puissiez, en fait, c'est cette richesse. C'est qu'il y a tellement de choses, mais vous pouvez tellement y mettre votre patte pour pouvoir l'utiliser comme vous voulez, dans l'entreprise comme en dehors, à partir de votre personnalité, dans la structure, dans l'organisationnel, dans le... Et en fait, moi, j'ai vraiment cette conviction que tout vient à se recouper. Toutes les pratiques, le fait de réunir toutes les pratiques, en fait, tout vient à un moment ou à un autre à se recouper autour du vivant, autour de. Mais par contre, ce que j'ai toujours voulu créer, c'est une approche qui se modélise au contour de votre vie, du vivant. C'est important pour moi. Moi, je viens du monde de l'entreprise. Je suis une ancienne responsable des ressources humaines. J'ai eu 1000 vies, mais j'ai vraiment eu en fait besoin d'avoir une approche qui puisse se modéliser à tous vos projets. Finalement, et je trouve que tu l'illustres super bien parce que on a eu la chance en plus de faire des événements présentiels ensemble et vous vous rendez pas compte de la richesse de votre profil. Vous cherchez à vous mettre dans des cases là, à répondre à des stratégies, alors qu'en fait de créer ce qui vous ressemble à partir de votre personnalité, c'est tellement extraordinaire. J'ai des personnalités extraordinaires dans la maison et vraiment Sandrine, moi je l'ai vue accompagner en En présentiel, hein, j'ai vu, de toute façon, vous passez un cas pratique, j'expliquerai, mais vous avez des cas pratiques de supervision, vous êtes accompagné, supervisé, mais je l'ai vu accompagné et c'est cette richesse-là de, j'ai plein de coachs, d'accompagnants différents et ils ont tous et toutes, pourtant ils appliquent la même approche, mais ils l'appliquent à leur manière et c'est ça qui est juste extraordinaire et toi tu l'as emmené dans le monde de l'entreprise et à ta manière, et je trouve ça, il y a une autre personne aussi qui en parle beaucoup, mais qui n'est pas là ce soir dans la maison, et elle qui l'a emmenée, qui a emmené beaucoup de PNL aussi. Alors, vous avez beaucoup, beaucoup de PNL dans la formation, qui a emmené la PNL et qui me disait au début, mais je ne sais pas comment je vais y arriver, je ne sais pas, je me rappellerai toujours, et qui a réussi à introduire à sa manière, avec sa sensibilité, avec son profil, et sans même forcer. C'est-à-dire, c'est même les gens qui ont été la voir en me disant, mais c'est génial ce que tu fais, c'est quoi? Et c'est comme ça qu'elle a créé un poste dans sa boîte. C'est assez fou. Mmh. J'espère qu'on va pas avoir de coupure de webinaire, Jan. Il est vraiment très chiant. On va essayer de finir dans les 5 prochaines minutes, si tu veux bien, sans que je te coupe la chic, Sandrine. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager à toutes les personnes qui sont là ce soir?
Alors à toutes les personnes, je vais déjà peut-être celles qui étaient intéressées et continuent un petit peu sur le monde professionnel. Effectivement, comme tu le dis, Eugénie, pour certaines personnes, ça peut passer assez facilement. Moi, j'ai vécu quand même pas mal de résistance de ma direction parce que, je vais dire un mot super important, c'est la notion de leadership. Quand on touche au coaching, on touche au leadership et on vient bousculer un petit peu des ordres établis dans la hiérarchie. Donc il faut s'y attendre. Voilà, pour celles qui veulent exploiter tout ça dans le monde de l'entreprise, il faut s'y attendre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment, c'est reconnu. Parce que assez récemment, d'ailleurs, j'ai eu une promotion et en même temps, j'ai eu des messages, mais encore une fois, en one-to-one, hein, c'est pas dit en public, mais que j'avais une approche du change management haut niveau.
Ça, et c'est... là, applaudissement général.
Donc, ça met du temps. C'est aussi un changement d'apporter ce type de pratique en entreprise qui est plutôt vu chez des profils de managers qui malheureusement ne sont pas équipés bien souvent à cela et on attend cela d'eux. Et voilà, du coup, c'est super intéressant de pouvoir du coup développer ce leadership et le coaching vraiment y contribue.
Et je pense que c'est aussi d'autant plus important. C'est pour ça que moi je vous embête avec ça. C'est quand vous arrivez avec un niveau de leadership, de compétences, de connaissances, de certitude, forcément c'est plus facile de l'emmener que si vous arrivez avec du coup un niveau d'incertitude, d'insécurité intérieure, parce que ça se sent. Quand vous incarnez, quand je parle d'incarnation, c'est vraiment ça et c'est ce à quoi je m'emploie. C'est pour ça qu'on prend que 20 personnes par cohorte parce qu'on les emmène de A à Z et à ce niveau d'incarnation-là. Quand vous emmenez un projet avec ce niveau de leadership-là, en fait, moi, je le vois en entreprise. Jamais, il y a des années, et les gens ils me disaient, mais tu n'arriveras jamais à mener ces projets-là. Aujourd'hui, j'étais dirigeante du 440. Donc, bien sûr qu'en fait, c'est possible. Par contre, il faut y aller avec votre propre niveau de leadership. Avant de vouloir, en fait, l'emmener chez les gens, il faut le porter parce que ça se sent et ça vous donne de la crédibilité, ça vous donne tellement une assise. Donc, beaucoup, je parle beaucoup de cette assise, vraiment, en fait, avec laquelle vous arrivez. Et ça, c'est vraiment, je pense, un ingrédient signature de la maison, quoi, très clairement.
Clairement. Et du coup, même si j'avais, alors, parfois, je fonctionne à l'intuition, pas forcément savoir pouvoir l'expliquer. Avec la formation, avec ta formation, tes méthodes, j'ai pu du coup un peu mieux expliquer, que ce soit un peu plus audible à mon entourage. Alors, certains entourages, hein, tout n'est pas reçu, mais c'est important du coup d'apporter cette profondeur et ces connaissances autour de la psycho, comme tu le dis, la PNL, tous ces outils. Et je travaille aussi beaucoup avec les outils de la facilitation. Alors, c'est très bien les outils de la facilitation, mais c'est beaucoup mieux de les comprendre et comment ils ont été conçus. Et du coup, je fais beaucoup de liens avec ce que tu proposes dans tes formations, et ce qui permet, du coup, dans le monde professionnel, d'utiliser le bon outil au bon moment et à la bonne situation.
Ouais, génial. Si jamais ça coupe, sachez qu'on se retrouve derrière. On se retrouvera demain. Je sais pas si on viendra sur le lien, mais en tout cas, on se retrouvera demain. Et s'il faut que je te relaisse un petit moment la parole, Sandrine, il y aura pas de souci parce que je vois le temps passer. Normalement, mon équipe a fait des modifs, mais j'ai quand même eu le pop-up, la fenêtre. En tout cas, demain, on abordera les saisons du printemps et de l'été pour votre information. Donc, tout le travail de reprogrammation, d'activation, de neuroplasticité, maintenant que vos systèmes sont prêts à recevoir, hein, parce qu'on les a préparés. Et demain, à partir de demain, on aura des coachings en live. Donc, soyez bien présents si vous avez candidaté pour pouvoir être sûr d'être coaché. Sandrine, peut-être quelques derniers mots. Je vois qu'il reste quelques secondes avant qu'on soit peut-être...